je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur.
Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux, c'est dans les cieux, nous partageons.
Bonjour. Ouais.
Hello.
Get naked, Chantal.
Hi, Gégas.
Hi. Hi. Non, on l'a déjà fait avant. On l'a fait le mois dernier. Oh. On est quand même pas des vendus.
Hey,
c'est le jet lag.
C'est le jet lag. Et voilà, bah, Radio Stour en direct de Londres.
Ah oui.
En plus, on connaît vachement bien Londres. On sait très bien que Chelsea.
C'est à Londres,
tu vois, c'est...
On n'est pas dans le Connecticut, là?
Un peu,
si. Ouais.
On est Connecticut.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est... le compte en banque est dans le Connecticut.
Voilà, alors vous avez reconnu à tort, qui est revenu. Toujours les vacances, c'est tout ça. JP Larky.
Blur the family, Blur the team, Blur the community, and be contre la grisette, contre la supre, to all of you, my followers.
Ah, Calcio. Alex. Hello. Kittle. Le monde est comme toi, le monde est bleu comme toi. Toi. Le monde est comme toi, le monde est bleu comme toi. Je vais. Allez, moi j'ai toujours. Et bien sûr, Scotty qui est toujours là.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied. On ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé.
Herzlich willkommen im Elsass, Herr Böhli.
Presque même en Allemagne.
Exactement.
Comme le disait notre grand Manitou, Ted Böhli.
Todd.
Mettons tout de
suite.
C'est Ted Bundy. C'est pour ça qu'il croit qu'il met un pied en Allemagne avec une connerie là. C'est quand même pour ça qu'il rachète le Racing.
Pour la Bundesliga.
Non, on parle pas encore de Racing. Bah, tu sais ce que Stéphanie de Monaco avait dit à l'époque, qu'elle avait un pied à Monaco et un pied à Paris. Et du coup, on plaignait les Lyonnais.
Comme un ouragan. Donc, bah, non, le Racing a été racheté.
Non. Oh,
putain.
Non.
Un jeudi noir.
Ouais, c'est un simple déjeuner.
Voilà. Simple déjeuner.
Ça n'engage à rien.
Hey, mais Radio Show, vous l'avez dit pas plus tard dans la précédente émission.
Ça
toujours raison.
On avait déjà laissé des indices. Il y avait un petit côté escape game. Et tout.
Surtout quand on a dit ouais, ça n'aura jamais lieu.
Il y a eu un petit feuilleton pour savoir est-ce que Bully rachetait 30, 60, 100%.
Ou 130%.
Ça fait des tweets.
La quantité de vaseline, oui.
Ouais, il manquait Sophie d'avant.
Ensuite, un communiqué laconique suivi immédiatement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le communiqué sur Facebook qui a été suivi
d'un bug hein, sur le site internet.
Oui, bug sur le site du Racing.
Bug.
Non, il y a eu plein de commentaires dithyrambiques. De supporters de Chelsea parlant français habitant en Côte d'Ivoire.
Ouais.
Des centaines de d'Ivoiriens supporters de Chelsea.
Une ferme.
Ouais, voilà. Sûrement des fils de missionnaires alsaciens.
Disciples de Schweiz.
Mais on a eu plein de followers. Hein. Le compte du Racing.
Mais quel est l'intérêt? Quel est le business plan là?
Bah, l'intérêt, on a dépassé le nombre de followers de Metz.
Super. Alors ça déjà c'est super.
Ça faut le dire.
Là, c'est peine investie. Quelle air déjà bien. Ouais. Là on peut dire, on critique souvent. Mais là comme
non, nous avons. Et donc ça valait plus vendre son âme.
Bon, ouais. Et son cul.
Et alors. Et son cul.
Et donc c'est 100% du club. Là il a dit tiens prends cette poignée de.
Je vends mon club pour une assiette
de Pierre Schmitt. C'est du
Pierre Schmitt dans le club.
Non, mais t'as rejeté par actionnaire.
Prenez cette focaccia, c'est mon cœur.
Bon, on salue 0-0, toi, parce qu'on parle de Pierre Schmitt.
Tout à fait, son grand ami personnel.
Voilà. Et donc, pendant que Pierre Schmitt, Marc Keller devenait multimillionnaire en dollars.
75 millions, oui, rappelons-le.
75 millions.
Putain.
Ce serait une estimation, apparemment, ce serait peut-être plus.
Oui, il faut attendre le closing, hein.
Voilà,
comme on dit.
Voilà, le club est repassé, j'ai envie de dire, sous pavillon américain.
Tout à fait.
Puisque, ah oui. Alors, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'actionnaire de référence, il n'y a pas de société, il n'y a pas de carrousel finance pour le moment qui a. Si,
non, c'est une holding, en fait, c'est un groupement de
d'actionnaires. C'est Blueco,
Blueco qui est actionnaire à 100%. Et Blueco est composé de fonds de
trois d'investissement. Et un fonds d'investissement.
C'est Clear Lake Capital qui pèse plus de 70 milliards de dollars, qui a été créé il y a une quinzaine d'années. Enfin, ils sont fait du fric sur la crise des subprimes, notamment.
Et dans lequel...
Ils ont mis des gens à la rue, mais bon. Tout
et bien. Dans lequel PIF à 5%.
Et le PIF, donc le fonds d'investissement d'État d'Arabie Saoudite, est actionnaire.
PIF, c'est pas ouais. PIF Hercule, quoi.
Non,
c'est PIF. Ça, c'était plus Georges Marchais.
Ouais, là, c'est PIF et Hercule.
Oh, homophobie, boum.
Pardon.
Et après, non, c'est des animaux, l'homosexualité est totalement normale chez les animaux.
C'est vrai, tout à fait.
Un chat qui recule un chien, c'est pas.
Ouais, ou les éléphants avec les rhinocéros, tu sais.
Et donc après, il y a encore quelques autres milliardaires américains, des gens bien.
Et un Suisse,
et un
Suisse,
un Suisse, un local.
Un Balois.
Un humaniste rénant.
Non, un.
Zurichois, non.
Il a quelque chose à Bâle, mais
il est francophone en tout cas.
En tout cas, il a
80 ans.
C'est lui qui a mis le pognon à la fondation Bayer, ça c'est sûr.
Ah oui, ok.
Mais il est de Zurich ou un truc comme ça.
Voilà. Ok.
Ouais. Et il a vécu aux États-Unis surtout depuis 30 ans ou un truc.
Un
humaniste du lac.
Donc voilà, que des gens bien qui ont fait fortune honnêtement.
Et Bully est un ancien employé de Clear Lake aussi.
Oui.
Et ce qu'on peut dire sur Clear Lake, c'est que donc Blueco est leur septième fonds d'investissement, il est dédié au sport et dans ce fonds-là,
ils ont les Dodgers, les Lakers.
Les Chelsea,
hein.
les Dodgers.
Ils ont une part des
Lakers. Est-ce qu'on a un joueur des Lakers qui va venir
à la SIG?
Ou à la Meno ou à la SIG, ouais.
Pour danser avec Sigo Food avec Sigo Food. Avec
Sigo Food dans
la première tâche.
Je sais pas, mais il sera au mondial.
Bon,
et on va revenir.
Bref, mais évidemment, c'est.
C'est de la merde. Ah non, pardon.
Non, mais c'est pas le Racing qui intéresse ces gens-là.
Ah, mais la question se pose.
Est-ce qu'il y a des questions militaires sur le Racing?
Attends, mais.
Ouais. Non, parce qu'attends, au-delà de tout ça, il y a la question est-ce qu'on est frère, sœur, fils, filleul, filiale?
Est-ce qu'on trahit l'enfant ou pas? Nos frères ou
pas? Non.
Voilà.
Non, mais si c'est vrai,
mais déjà, quoi le statut? Non, mais déjà, la question, c'est pourquoi ils viennent. Et ça, enfin, il y a l'article de Strotim que je recommande encore une fois. Je peux te laisser le.
Qui est très long.
On est
très bien.
C'est pourquoi ces gens s'intéressent à un club de foot en France, sachant qu'ils voulaient avant d'acheter le Racing, ils s'étaient intéressés à Bordeaux, ils s'étaient intéressés à Lyon, ils s'étaient intéressés à Sochaux. Donc en fait, ils viennent pas pour Storky ou pour les Tarflambés, ils ont juste besoin d'un club en France.
Voilà. Voilà.
Mais finalement, en fait, ce truc-là est pas si récent que ça, parce que si tu réfléchis, quand Proisy était arrivé au Racing en 97, il avait dit deux choses, en dehors des multiples autres conneries.
Pourquoi les ballons sont pas jaunes?
Voilà, c'est ça. Et il avait dit, la première chose qu'il avait dit, c'était, on réfléchit, Francfort, Séville, on voudrait montrer un réseau. Et Proisy, le premier truc qu'il avait fait quand il était arrivé au Racing, c'était pas de s'occuper du Racing, c'était de se faire élire à la Ligue, parce qu'à l'époque, IMG, leur business, c'était les droits. Et ce qui les intéressait, c'était pas tellement d'avoir un club de foot, mais c'était d'avoir une place pour récupérer les droits du foot. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les mecs ne s'intéressent pas en tant que tels au Racing comme étant Racing Club de Strasbourg. Et ça, évidemment, pour nous, ça fait un peu de mal à entendre. Mais ce qui les intéresse, c'est d'avoir une place dans la Ligue française, parce que ça leur permet de noyauter avec d'autres la Ligue française, parce que ça leur permet de s'en servir comme d'une équipe réserve, d'une farm team, ou d'une ligue qui est vue comme étant un truc de développement, quoi. En gros,
G-League.
Suffisamment compétitif pour faire monter 2-3 bonhommes, mais pas non plus trop pour que ça nous taille des croupières, et derrière, ça doit alimenter le navire amiral. C'est ce qu'il y a dans leur esprit. Je ne sais pas si ça va marcher, mais pour moi, c'est la seule logique, en fait. Donc derrière, quand tu peux raconter, tu peux te masturber autant que tu veux pour dire que c'est, on est un club frère, ou etc., il faut quand même avoir un sens des proportions. Chelsea, ça va n'importe où dans le monde, tout le monde sait qui c'est, ils ont gagné la Ligue des Champions.
Le bœuf.
Tout à fait.
Chelsea, son père était président des États-Unis.
Exactement.
Ouais. C'est grâce à Costello aussi.
Ouais.
Mais en fait, c'est un modèle qui s'applique partout. Enfin, on parle de beaucoup, mais c'est.
Oui.
Bah, je sais plus maintenant combien de clubs français qui sont dans ce système-là de multipropriété. Pas forcément avec des Américains, pas forcément toujours en tant que.
Beaucoup avec des Américains.
Que succursale, mais beaucoup avec des Américains.
Enfin, ouais, mais faut suivre. Pourquoi les autres ils arrivent et pas nous? Pour faire pareil qu'eux.
Oui, mais on peut tous foncer dans le mur en même temps, mais pourquoi pas? En klaxonnant en plus et en faisant coucou par la fenêtre. Mais il y a Lorient là qui en plus qui s'est illustré là tout récemment par une espèce de montage pour l'achat d'un joueur.
Romain
Fèvre qui a été acheté par Bournemouth qui est le club le vaisseau amiral de comment ça Bill Follet.
Par contre, à quel moment ton vaisseau amiral c'est Bournemouth?
Ouais, c'est énorme. C'est énorme.
Mais en fait, c'est ça.
Mais peu importe le club, c'est la première ligue.
C'est une réalité économique. Ils regardent ce qui rapporte de l'argent. Et en fait, la première ligue a deux grandes différences avec les autres championnats. Le premier, c'est que la répartition des revenus en première ligue est beaucoup plus égalitaire qu'en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, effectivement, Bournemouth, personne ne sait où c'est. Personne ne doute que du fait que là-bas il y a des filles mal habillées trop grosses et des gars qui décollent sur une jetée parce qu'ils ont
surtout
prévu,
à Nouvel An,
surtout à Nouvel An, et que ça pue de la gueule, mais en fait ça vaut 10 fois mieux que même Monaco
ou que le Racing.
Bah oui, ou que le Racing, parce que c'est en première ligue, et c'est juste le simple fait d'avoir le ticket en première ligue est valorisé.
Et que les droits TV anglais,
et c'est la deuxième chose, c'est que les droits internationaux n'ont absolument rien à voir, parce que bah, quand t'es Bournemouth, tu reçois Liverpool, tu reçois Chelsea, tu reçois Man U.
T'es vu au fin fond du Cambodge, et
c'est ça.
Mais
tu
crois
comme site de streaming, s'il te plaît.
Je sais pas. Ce qui est
Vas-y, c'est pour toi.
Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est à quel point c'est un révélateur à débile. Je le dis, en toute amitié.
Ça n'engage que toi.
Moi-même, je suis débile. Mais parce que le jour de l'annonce, on a aussi des articles dans la presse anglaise. Et c'était très clair. Les interviews de Bully, donc lui, le mec qui met un tiers du groupe, du nombre de mecs qui prennent le club, il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement, c'est disponible dans tous les sites.
Sur le Guardian, oui.
Exactement. Il disait pas du tout ce que disait Mark Keller, qui nous parlait de club frère et plus sur la commode. C'est pour ça que je vous ai parlé de frère, sœur, filiale, machin. Il a dit, le Racing c'est bien, on va y mettre nos jeunes pour qu'ils aient un peu de temps de jeu. C'est exact. La France c'est super parce que ça forme bien les joueurs, donc pour nous ça nous fera une pompe à joueurs. Et c'est juste, il a pas dit, puis si on a des vieilles d'eau, on les fera terminer en voie de garage là-bas, parce que on est bien obligé, et puis ça fait chier. Donc déjà, c'était clair le premier jour. Et maintenant on continue. Il y a l'ange Gabriel, de 18 ans.
Ouais.
Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'emmènent dans leur tournée, puis s'il est passé bon, c'est nous qui l'aurons. Qu'est-ce qu'il faut aux gens?
Non, mais en fait,
je comprends pas ce qu'il faut. Les gens,
en fait, il y a deux.
Ah, mais il faut attendre de voir, on sait pas.
Il y a deux ouais. En fait, il y a deux niveaux là-dessus.
Oui, une
série. Pour te lancer. En fait, il y a cette histoire de. Si on raisonne que sur le sportif, effectivement, Chelsea, ils ont des effectifs XXL, mais partout en première ligue. Et ils ont besoin de prêter des joueurs d'avoir une espèce de ferme, effectivement, pour faire grandir l'espoir. Ça leur permet d'acheter des joueurs de 18 ans pour aller 10-15 millions d'euros. Ils les prêtent et ils peuvent même faire une plus-value sans qu'ils aient porté le maillot de Chelsea. Donc c'est idéal, hein. Donc tu peux maximiser tes revenus là-dessus. Ça, c'est le premier niveau, c'est le plus visible. Mais après, c'est encore vraiment, c'est ce que disait Schrottin, mais c'est vraiment.
il y a plusieurs fonds d'investissement qui investissent dans un même pays, qui investissent dans plusieurs pays. Au final, ça leur permet de contrôler des ligues qui sont exsangues partout. Enfin, en France, Vincent Labrune parle toujours du milliard d'euros de droits télé, on va se casser la gueule. Parce qu'en plus, beaucoup de clubs crèvent cet été. Enfin, on peut parler de Sochaux, on peut parler de Nancy, mais même dans les divisions inférieures, c'est l'hécatombe. Hein. Il y a plein de clubs de N2, de N1 qui commencent à crever. Et ça va continuer en N2. Enfin, la tendance est très, très mauvaise.
Ça, c'est de la faute à Macron.
En Espagne, c'est pareil. Le Barça, le Real, qui sont les têtes de pont, financièrement, c'est la merde. Les petits clubs ne peuvent plus investir. Séville est obligé de vendre. Enfin, le foot européen est en train de crever pendant que la Première Ligue, elle croule sous l'argent.
C'est tout avec l'argent.
Donc, et à côté de ça, bah, t'as des fonds d'investissement qui viennent, qui vont servir des autres ligues européennes comme des outils pour continuer à augmenter les revenus de la Première Ligue et faire de l'argent comme ça.
Je comprends pas que ce soit pas évident pour tout le monde.
Oui, bah c'est ça. Enfin,
et après, la réalité aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'autre offre.
Oui, mais
sur la table.
Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut continuer à alimenter un système économique qui a ni queue ni tête.
J'entends, mais alors du coup, t'es à la place de Marc Keller. On a atteint un plafond de verre, clairement.
Mais ça, je suis pas d'accord.
Attends, il y avait le collègue qui voulait s'exprimer.
Oui, non, alors, je vais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu disais sur le business model, hein, pour utiliser un mot, de ces fonds d'investissement. Alors, effectivement, il y a faire éventuellement du trading, se servir de ce modèle, une petite propriété, pour aller l'année des revenus à gauche à droite. Ça, c'est pour pas oublier un truc, c'est que, à la base, tous ces fonds-là, Clearlake, enfin, leur but, c'est quand même de faire de la valorisation. Et donc, qui dit valorisation, bah, c'est aussi que derrière, d'avoir un avantage à la revente. Donc ces mecs-là, potentiellement là, enfin ils sont là pour 6-7 ans, ils ont un fonds où ça va durer un certain nombre d'années, mais enfin, je veux dire, on n'est pas sur un truc patrimonial où les mecs achètent un club pour derrière, voilà, ça fait partie de ton patrimoine. L'idée derrière, quand même, c'est de faire une revente. Et ça, c'est important aussi.
Oui.
Et le deuxième truc que je voulais dire, oui, alors ça, c'est improbable. Alors, le premier truc que tu as dit quand on a parlé de la vente, toi, tu t'es dit, je me suis demandé quel était l'intérêt de ces mecs-là à aller acheter ce club-là. Mais j'ai l'impression que l'immense majorité des gens qu'on a vu réagir sur les réseaux, mais ils ne se sont pas posé cette question parce que moi, ce qui m'a plus surpris que la vente, c'est les réactions de la commu. Hein.
La commu.
Non, mais des gens en général qui étaient là, disent, bah, pourquoi
c'est normal,
on aura des super joueurs.
Oui, c'est le sens du foot.
On aura des super joueurs.
Et ça m'a... Parce que y ait des connards qui veulent se profiter du Racing pour se faire du blé, bon, ça me surprend pas. Mais que les suiveurs du Racing depuis des générations et des générations se fassent enculer et chercher la vaseline et dire bah tiens, remets-en un peu, ça me surprend quand même.
Pour répondre à vos deux points, à la fois celui de Calcio et le tien, mais c'est très bien, effectivement. En fait, moi, quelque part, j'ai presque plus la haine contre nos grands décideurs du football français que contre ces fonds d'investissement. Oui, parce que un fonds d'investissement, un Clearlake, franchement, moi j'ai regardé 2-3 fois la vidéo là de leur patron que j'ai posté sur le YouTube où il y a aussi le mec de Milan et de Toulouse là qui s'exprime.
Red Bird.
Les mecs en fait font pas de sentiments. Ils sont parfaitement rationnels. Ils sont extrêmement clairs. Ils t'expliquent leur plan par A plus B. Ils arrivent et disent bon ben voilà, une franchise nord-américaine de sport, ça coûte beaucoup trop cher. Le business du football européen, finalement, sur les droits internationaux, contrairement au sport américain, c'est vraiment un truc international. Ça se vend en Asie, ça se vend en Afrique, ça se vend au Moyen-Orient. Et effectivement, bah, quand on voit le marché, il y a moyen de l'optimiser. Moi, si je prends mes lunettes de gars qui réfléchit d'un point de vue économique et qui oublie son statut de supporter de football, je le comprends. Et là où j'ai vraiment la haine, c'est contre les mecs comme Labrune, qui voient ce truc arriver depuis des années, parce que c'est quand même pas des idiots,
et qui l'encouragent,
qui font semblant de pas le voir, qui se disent non, on est soi-disant dans le Big Five, on va soi-disant y arriver, alors que ça fait des années que t'as des clubs qui sont en déficit structurel.
Est-ce que Labrune serait pas non plus un peu une papette,
une
marionnette? qui a été mis là justement pour une espèce de vaseline géante, une vaseline humaine, tu vois.
Il l'a déjà sur les cheveux, effectivement.
Parce que pour moi, la Brune, c'est un escroc, en fait. C'est lui, il est là, il a un rôle, parce que lui, un jour, il va quitter le poste de la Ligue, et les clubs se retrouveront amputés des droits télé, amputés de places en Ligue des Champions, amputés, enfin, de tout. Et le mec, il dira, ah, bah, moi, je m'en fous, maintenant, je retourne faire de la télé, ou je ne sais plus ce qu'il
fait. C'est le mec qui a fait en sorte que les gros clubs,
soient riches,
et les clubs,
c'est une espèce d'agent, les vrais coupables, et pour, comme pour tous, c'est les présidents de clubs.
C'est pas
faux. Ah, non, c'est vrai, t'as raison. Qui disent oui, à la suggestion. Genre, comment les clubs ont pu accepter de passer à 18 clubs? Comment on a réussi à leur faire passer la pilule?
Non, mais, sans déconner, en fait, le 18 clubs, en soi, c'est pas totalement irrationnel, mais qu'il y ait, en fait, qu'il y ait pas cette réflexion. En fait, en France, il y a jamais eu cette réflexion où on vend la Ligue comme étant un produit en elle-même. Les gars sont toujours allés là pour se tirer dans les pattes, comme un syndicat de copropriété où tu sais, ah bah tu sais quoi, on va voter contre Raoul parce que la dernière fois il a voté contre un truc de bac à fleurs, donc là on va, sur sa gouttière on va le niquer ce connard. Et en fait les types se rendent pas compte qu'ils ont un immeuble à entretenir, ils finissent toujours par faire les trucs à l'arrache, à payer trois fois le prix parce que ça s'est dégradé et qu'ils ont choisi l'entreprise à la dernière minute, et ils font encore une espèce de guéguerre où ils ont l'impression d'être super intelligents, d'être des Machiavel du rez-de-chaussée. Parce qu'ils ont réussi à quoi? C'est Jean-Luc qui a pissé dans le bac à fleurs à la vidéo. Et en fait, mais sérieusement, le soi-disant ligue de professionnels de football, c'est exactement ça. Et nos amis américains, là, nos nouveaux amis américains, rendons-leur que eux, ils savent ce que c'est que de faire un business d'une ligue. Je rappelle que
la NBA, c'est
ça. Modèle. Je veux dire, si tu prends par exemple une ligue comme la NFL, les mecs se sont dit collectivement à 30, que c'était un problème de ne pas avoir d'équipe à Los Angeles. Très gros marché. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'équipe à Los Angeles? Ça ne va pas. Et ils se sont mis ensemble pour dire comment est-ce qu'on va déplacer l'équipe de Saint-Louis à Los Angeles, etc. Avec un truc. Et les gars, en fait, ont eu une réflexion business à se dire qu'ils vendaient un truc collectif. Quand ils réfléchissent, c'est un truc... La draft, c'est un truc assez communiste, en fait. De dire le dernier doit avoir le droit de prendre le meilleur joueur. Et parce qu'en fait, les gars se disent, en fait, on a un intérêt collectif à vendre un produit qui a un minimum d'intérêt, et le seul championnat qui a vaguement réussi à faire ça, c'est la Première Ligue. Parce que même des équipes de clodo comme Bordeaux,
si la Brune nous écoute, il va mettre une deuxième équipe à Paris en Première Division. Hein,
tu mais vois, par exemple,
typiquement, une ligue de foot professionnel en France, elle fait tout pour faire monter un club, mais quitte à magouiller, mais avoir un deuxième club.
Même deux, même cinq aussi. Non, mais pour, en Angleterre,
on va voir Chelsea. Mais pour valoriser le produit championnat, c'est ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, c'est ce que dit Strotim, c'est que chaque club ne raisonne qu'à son échelle.
Bah, faut le frérot
devant toi. Mais juste pour revenir sur le modèle économique et en disant que finalement on n'a pas le choix, parce que c'est un argument qui est tombé, en disant oui, mais tous les gros clubs continuent à verser de plus en plus de salaires. Mais finalement, le modèle qui était sain, c'est le modèle sur lequel était le Racing. Le Racing, sur les derniers comptes qui ont été publiés par la DNCG, donc 2021-2022, génère 57 millions d'euros de recettes naturelles, hors vente joueurs. Et en fait, c'est ça ce qui devrait être
matériel. Mais la réalité, c'est que là, tu vois bien que peser 4 ou 5 millions sur un joueur, ce n'est pas possible.
Mais c'est peut-être ça aussi le problème.
Mais peut-être.
Mais est-ce que c'est pas le système de transfert qui est le problème?
Sauf que.
On ne pourra pas acheter 20 millions comme ça, le sombre défenseur belge.
Mais si, mais il faut changer le système.
Mais il faut, oui, mais ça, je veux dire, c'est pas parce que le Racing à son échelle ne pourra pas le faire.
Mais non, le système changera quoi qu'il arrive.
Mais tu vois, en fait, en fait, quelque part, il y aurait eu, mais c'est évidemment trop tard, il y aurait eu une réflexion au niveau de la Ligue qui consiste en fait à faire exactement l'inverse de ce que Thiriez puis La Brune ont fait. Thiriez et La Brune, leur seul projet, ça a été de se raccrocher à la route, ce soi-disant Big Five, d'être le cinquième du club des cinq, d'être un peu le dernier.
Même des locomotives, PLM.
C'est ça. Donc, on mise sur quelques gros clubs qui sont censés nous tirer en Coupe d'Europe. On singe ce que font les autres, un coup de transfert, etc. Une autre politique qui aurait été possible, c'est d'acter le fait qu'effectivement, on était une ligue de second rang. De se dire, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. De se dire, peut-être que, en fait, c'est complètement con. Enfin, si je raisonne d'un point de vue purement économique, hein. C'est peut-être complètement con que chaque club dépense chez lui des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur un centre de formation, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un pool avec 4-5 gros centres de formation en France, et après on fait un truc style la draft, où le gars qui a 18 ans, bah, il doit aller à Metz parce qu'ils sont mauvais, donc cette année il faut qu'il remonte. Et en fait, à ce moment-là, tu aurais pu te positionner comme étant une espèce de championnat moyen, mais bien structuré, qui rapporte du pognon et qui est organisé avec une structure de coût idéale, où effectivement tu claques pas 20 millions pour faire venir des mecs parce que ça sert à rien, surtout quand t'as le meilleur vivier de talent en Europe, c'est quand même assez largement reconnu. En fait, ce truc-là aurait été plus rationnel, mais évidemment, ça faisait pas rêver, parce qu'en fait, on est toujours dans cette espèce de branlette où on se dit qu'on va avoir des résultats en Coupe d'Europe qu'on n'a jamais. Quoi.
Tu as plafond des joueurs étrangers qui viennent en France.
Non, pas forcément.
Tu te retrouves aussi avec
des Newcastle
ou des Bournemouth qui...
C'est où Bournemouth? C'est où Bournemouth? Le sud. Mais c'est, en fait, ça doit se jouer au niveau de l'UEFA, ça. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on est dans une logique complètement néolibérale, ce qui fait que ces gens-là se croient tellement au-dessus des règles. En fait, ils font n'importe quoi parce qu'ils savent qu'au bout d'un moment, ils arrivent à faire plier les instances pour tendre les règles vers ce qu'ils veulent.
Tu parles de l'UEFA là.
Mais je parle de l'UEFA, de Seferin qui a complètement ouvert la porte à la multipropriété dans la même Coupe d'Europe, par exemple.
Mais parce que la réalité, c'est depuis l'arrêt de Bosman, hein, c'est comme ça, hein, on a dit
qu'il y a... Ouais, mais là, ça aggrave de plus en plus. Mais aujourd'hui, on est en 2023, on va acter le fait que la multipropriété, c'est possible que deux clubs de la même propriétaire peuvent s'affronter en Coupe d'Europe. Mais 2024, 2025, 2026, ça va être quoi après le... Enfin, on pourra se passer...
Le nouveau derby.
Non, mais on va de toute façon, on va droit dans le mur en klaxonnant, enfin le... Oui. Moi, je suis vraiment inquiet sur l'avenir du foot à 10 ans, quoi.
Moi, je voudrais recentrer sur la commune et la famille, la team. Ce que vous dites, avec mon frérot, évidemment. Les championnats des tribunes, oh là là, ou des supporters, ou je sais plus quoi.
Quatrième.
Tout ce que vous dites est vrai, d'accord. Je pense que tout ce que vous dites, il y a très peu d'extrapolation là-dedans. Mais même si on n'en retient que les faits, ils sont hyper clairs. Ils sont dits ouvertement, c'est pour ça aussi, moi je suis d'accord. J'en veux moins à Bully et tout son orchestre qui sont naturels, qui expliquent ce qu'ils veulent faire. Ils expliquent même plus que ce qu'ils devraient. Ils sont là, bon, oui, bien sûr, rien à foutre, c'est une pompe à merde. Voilà, c'est notre sceptique, il n'y a aucun problème. C'est écrit, donc c'est écrit, voilà, c'est là, c'est clair. Donc à eux, je ne leur en veux pas, c'est clair. Et je suis d'accord, la Ligue, etc. Mais ce qui me rend encore plus fou,
les suceurs.
Oui, c'est ça, mais les mecs, est-ce qu'ils y croient ou ils y croient pas? Parce que s'ils y croient, c'est dingue.
Mais ils y croient parce que Marc Keller, il en rend vachement bien les choses.
Mais oui, mais Marc Keller.
Justement, la question.
J'en veux à Marc Keller.
Est-ce qu'on en veut à Marc Keller?
Mais oui, c'est un enculé.
Je sais pas ce qu'on a dit à la dernière émission, mais si on a demandé démission, je dirais démission. C'est impossible. Le même jour, il dit des trucs complètement faux à tout le monde, le même jour. Ou Bully, c'est le même jour. Ou Bully, dans Guardian, dit je les emmerde, ces Strasbourgeois, tous. Un par un. Non, il n'a pas dit ça. Mais ça ressemble.
Moi, ce qui m'avait choqué, j'ai suivi, j'étais en République tchèque, faire du scouting pour des films.
Ouais.
Des trucs.
Des films.
Il y a un business maintenant avec les Anglais, les joueurs anglais qui vont débarquer à Strasbourg. Il faut de la WAG.
Et on sait qu'en la matière, tu sais te dévouer.
Il y avait certains comptes Twitter qui disaient. Blue & Co a signé Strasbourg, prochaine étape, le club au Portugal, on continue à
tourner.
Hein?
Mais des nouveaux frérots.
Mais grosso modo, c'était on continue. En fait, rien à foutre.
Et Rio Ave, c'était l'ancien club de Jorge Mendes où il faisait transiter ses Brésiliens par cargo. Donc, on est vraiment, ça fait des années que c'est comme ça. Mais oui, mais il y en a beaucoup des clubs.
T'imagines,
c'est l'avenir, c'est ça.
Le tournoi de pré-saison, là. Mais c'est une Coupe d'Europe, hein. Une Coupe d'Europe accélérée, ça peut être pas mal.
Donc du coup, on en veut à Marc Keller.
Mais évidemment.
Putain, mais oui.
Alex.
Non, je voulais répondre à JP Darky.
Oui.
Je pense que tu es trop philanthrope, en fait. Je pense que tu te rends pas compte.
C'est bien, t'es plus chute.
Non, mais je pense que, tu vois, là, Angelo, Gabriel, peu importe. Tu vois, lui, il arrive maintenant. Dans le contexte d'avant, il n'arrivait pas.
Suivi par Loïc Désiré depuis que la carrière...
Non, mais ça peut être... S'il est nul dans la tournée des...
Mais ce que je veux dire, c'est que ce mec-là, qui potentiellement a... une meilleure carte sur FIFA ou je ne sais quoi.
Il y a un débat dans ça.
Non, mais tu vois, il y a pour beaucoup de gens, la logique, elle s'arrête là. Est-ce que je vais avoir un meilleur
Est-ce qu'on peut dire que les suceurs sont en majorité de la génération racine?
C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai.
Ah, non, je demande, je pose la question. Non,
s'il y a une
digueuse d'or,
après, il y a des gens. Faut dire qu'il y a des gens qui ont vu Benjamin Cornet jouer au foot, quoi. Est-ce que peut-être Angelo Gabriello.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Benjamin Cornet jouer au foot?
Non, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait de mettre ça sur le dos de la génération Racing. Je pense que ça a plus à voir avec le rapport que tu as au football. J'ai eu des discussions assez approfondies avec un ami qui s'appelle David qui nous écoute peut-être. Et en fait, le gars me disait, mais en fait, moi, ça fait des années que je me fais chier, je voudrais voir du... Lui s'intéresse au football.
Ah, le sport.
Le sport, ah, tu vois. Voilà, bref, le côté social, mais c'est le côté social, tribune, culture, etc. Je vais pas dire qu'il le connaît pas, ce serait faux, il y est sensible aussi, mais il se dit, bon, finalement, si on voit du spectacle, des bons joueurs, des choses qui se passent sur le terrain, pourquoi pas? Et beaucoup de gens sont dans cette posture, et je pense que tu peux pas dire que, parce que, en l'occurrence, la personne en question, elle connaît le Racing vraiment sur le bout des doigts, elle a été au stade depuis 40 ou 50 ans. Bon, 50 c'est peut-être un peu sévère. Et en fait, ça renvoie exactement à ta conception de ce que c'est un club de football. Oui. Et t'avais posté un article du Guardian qui disait exactement ça. Qu'est-ce que c'est que...
On n'a jamais lu autant le Guardian.
Mais ça, exactement, quoi. T'sais, on est devenu...
Jonathan Wilson, pyramide inversée.
Est-ce que c'est finalement une équipe sportive qui doit performer? Et après, effectivement, rationnellement,
un spectacle.
Tu peux effectivement te dire qu'un Racing un peu surfinancé... Je suis d'accord avec toi.
Où est-ce une communauté de...
Où est-ce que c'est effectivement un truc qui va au-delà, qui renvoie un attachement culturel, à une forme d'identité, à la conception de se dire que c'est justement dans les mauvais moments que tu... Enfin, c'est Tony Cornby à propos du foot, c'est ça. Tu vois, c'est en fait le mec, il déteste les victoires parce qu'il sait que ça lui annonce de futures souffrances, tu vois. Et en fait, évidemment, autour de la table, on est plutôt de ce côté-là.
Souffrance, ouais.
Il y avait une phrase, bon, c'est Marcelo Bielsa, hein, il parlait d'un supporter de Newell's Old Boys, le club en Argentine qu'il avait entraîné. Et ça, il avait dit, c'est une phrase qu'il avait marquée, qu'un supporter lui avait dit, c'était j'aime Newell's, donc le club de Rosario. J'aime le club même s'il gagne.
Ah ouais, c'est... Donc c'est bien ça.
Ouais, mais c'est ça, c'est de dire que finalement, bah tu viens pas juste pour voir un succès sportif ou quoi que ce soit. C'est autre chose, ça va au-delà. Mais c'est une conception philosophique même de l'attachement que tu as.
Absolument. Je veux dire, si les romans, si les cinémas, c'était des gens qui ont du succès, mais il y aurait rien. C'est pas intéressant, il faut d'abord que les mecs se pètent la gueule.
C'est
que
ça.
Que ce soit dur. Sinon, c'est
l'échec d'hier avec les victoires de demain.
C'est ça. Ouais, regarde Tom Cruise dans Top Gun, son père, soi-disant, c'était un lâche et tout. Il essaye de serrer la meuf, elle lui met un râteau, mais finalement, il la nique. Enfin, tu vois, c'est exactement ça. C'est...
Et pour elle, c'est un énorme échec.
Même si ton truc, c'est uniquement sportif, enfin, dans un second temps, même si là, potentiellement, au début, il y aura peut-être un petit upgrade où on parle des mots anglais, mais. Mais dans un second temps, il y aura quand même, a priori, des décisions qui n'iront pas dans le sens de l'intérêt sportif du club. Donc, ton ami il serait frustré aussi parce qu'il va se retrouver à avoir des décisions qui vont être plutôt des décisions qui vont dans le sens de
Chelsea.
De l'intérêt financier du groupe Clear Lake et qui seront, tu vois, quand. Bah, de filer
d'acheter que des jeunes
à la rue, mais que tu dois devoir le faire jouer parce que,
est-ce qu'on est prêt à accepter ça pour de l'argent?
De valorisation, etc. Tu vois,
est-ce qu'on est prêt à accepter ça pour l'argent? Genre, prendre le belge là qui est pas belge.
Mais est-ce qu'on est sûr que ça se passera comme ça? Parce qu'après, entre Strasbourg, un bon joueur, et puis le top niveau de Chelsea qui finit par 11e de première ligue.
Mais l'avantage d'un réseau de clubs, c'est que finalement, encore une fois, t'es pas obligé de faire passer ton joueur par le club principal.
Oui.
Tu peux faire une plus-value en faisant uniquement jouer dans tes clubs fidèles.
Oui. Après, sur l'aspect du niveau de la soi-disant équipe réserve, il y avait quand même. Enfin, faut prendre ce qu'on connaît. Il y avait une époque où François Keller t'expliquait, il vaut mieux qu'on ait la réserve en CFA 2 On gagne plus de matchs qu'on en perd, plutôt que d'être en CFA, en chier, etc. Et en fait,
magnifique métaphore.
Et Manchester City, je me demande dans quelle mesure ils n'ont pas fait le même raisonnement en Ligue 3.
Ah ouais, parce qu'ils maintiennent leur entraîneur.
Allons en Ligue 2, gardons Skippy le kangourou, là. Il fait bosser les gars. Au moins, en Ligue 2, on est à peu près sûr de se maintenir, donc on pourra tester tout ce qu'on veut, on pourra tester le truc à la Guardiola, parce que.
Et t'es plus discret médiatiquement.
C'est ça. Et donc, en fait, ce genre de truc, effectivement, risque de nous arriver.
Mais trois te dira qu'ils ont passé cette année la DNCG sans aucun souci, contrairement.
Ah, ils perdent de l'argent, trois. Hein.
Oui.
Donc, au bout d'un moment, si ça se trouve, dans quelques années, ils vont se rendre compte que.
Ça se trouve, mais là, concrètement, ça n'a pas eu de souci.
Alors, oui. Autre question, donc on est d'accord qu'on en veut un Mark Keller. Voilà. Ça a été...
On n'a pas trop parlé de Mark Keller.
Oui, bah, surtout sa communication.
C'est fantastique.
Les façons dont.
Est-ce que c'est grotesque le truc? Ou est-ce que c'est diabolique?
Il y a à la fois l'interview sur RMC, ensuite tu as le condensé sur
France 3. Ouais, Marc
Voilà, pour France 3, pour ceux qui n'ont pas RMC dans le Bas-Rhin.
Yo, alors Marc
monde.
Et
à chaque fois, il répète voilà, cette idée qu'on a commencé un peu à aborder avec Hathor, où il n'était pas d'accord, et moi non plus, qu'on était au taquet, qu'on était au bout de l'histoire, qu'il fallait clôturer le chapitre reconstruction. Voilà, moi je suis pas d'accord, on va
développer. Je trouve que lui était au bout de l'histoire.
Mais c'est ça.
Ouais,
oui, non, mais lui qui veut le partir, pourquoi
pas. Ça comme ça, et après,
c'est plus facile de dire que c'est
l'alternative. Il y avait rien d'autre.
C'est plus facile de dire que moi, je veux partir. C'est genre, je te quitte, mais c'est pas ta faute.
Non,
tu vois. Ouais, voilà. Non, mais... Genre, ah, non, mais je pars parce que genre, il va pas dire.
Je pars
parce que je veux aller mettre des mains au cul à la ligue, à la fédé.
On en revient encore une fois à l'économie du foot, c'est que finalement le modèle du Racing, il était relativement sain. Et c'est Marc Keller lui-même s'en vantait il y a quelques années. On tendait un peu vers le modèle allemand, c'est-à-dire que le club génère ses propres ressources. Bon, même si c'est les derniers exercices comptables, il fallait quand même qu'on vende quelques joueurs pour équilibrer.
Est-ce que Mediapro Covid n'a pas changé la
Il y a ça aussi.
Ouais, ça, c'est une petite, oui.
Mais c'est une petite. Mais en fait, on générait nos propres recettes et on avait un budget cohérent. Et ça suffisait pour se maintenir.
Mais encore une fois, le fait est qu'aujourd'hui, l'ancien Racing ne pouvait plus mettre ne serait-ce que 10 millions d'euros, ce qui est une somme
colossale
pour le Racing sur un Habib Diallo, là, le Habib Diallo qu'on a fait.
Je ne suis pas d'accord parce que tu le revends 20 millions.
Mais est-ce que ça a vraiment un sens d'acheter des joueurs à plus de 10 millions d'euros, enfin, on revient sur le système de transfert au final.
Alors après, il faut choisir entre une équipe junior de bas de tableau de Ligue 2.
Mais non, tu tiens en Ligue 1 sans ça.
Tu vois bien que cette année, c'est maintenu.
Mais en fait, c'est. Non, mais tu mets le doigt sur quelque chose parce que.
Moi, je pense que c'est un système, un problème beaucoup. Mais tu l'as dit avant, c'est un problème beaucoup plus global que le Racing. Mais je pense que oui, le Racing était au bout de quelque chose.
Là, Jeffrey Cardinal, là, qui est le patron de. De Toulouse.
Redbird.
Il l'explique de façon extrêmement prosaïque dans cette fameuse vidéo. Et il dit en fait un truc, alors je suis désolé, on va faire un tout petit peu de finance, je suis pas forcément hyper versé en la matière, mais faisons-en quand même un peu. Et il explique un truc, il dit, il compare avec Disney, les parcs d'attractions, et le business de Disney. Et il dit en fait, le football devrait tourner comme Disney. Et à un moment il dit, I am a cash flow guy. Qu'est-ce que ça veut dire cash flow? Ça veut dire qu'en fait, ton club génère de la trésorerie, ça veut dire qu'il génère de l'argent plus vite qu'il le dépense, donc tu as l'argent sur le compte pendant quelques jours. La quintessence du cash flow, c'est le supermarché. Toi, tu vas dans un supermarché, t'achètes un truc qui est sur un produit qui est sur le rayon depuis maximum 3 jours.
Lui,
il le paye dans 3 mois. Pendant 86 jours, il a l'argent sur le compte, évidemment, il ne le regarde pas. Il en fait quelque chose. Et en fait, il dit, les clubs de football européens sont dans l'exact inverse, parce que justement, ils sont toujours en rate de thunes à cause de cette économie des transferts, à cause de la surenchère des salaires, parce qu'il n'y a pas de cash flow et tout ça. Et en fait, les mecs, du coup, courent tout le temps après l'argent. Ça flingue leur business. Alors qu'en vrai, ils devraient être comme Disney. Ils devraient prendre la thune de tous les gens qui viennent, prendre la thune de tous les droits de télé, avoir un compte positif, mettre l'argent de côté, gagner de l'argent là-dessus et enclencher un business positif. Ça, c'est du vrai foot business. Et dans une certaine mesure, c'est rationnel, c'est inattaquable. Et en fait, comme on n'a pas été capable de le faire, c'est les Américains qui vont le faire à notre place avec leur méthode à eux, et en n'ayant rien à branler de ce que nous, on a comme attachement.
Dans ce modèle, le Racing, par rapport à Chelsea, sert de variable d'ajustement.
Exactement.
Slash poubelle, slash, on va dire, haras, trucs d'essai, quoi. Je pense
c'est ça.
Dit, voilà.
Pute, parce que gens... on va prendre la métaphore d'un parc Disney. T'as l'espèce de gros, ou prenons Europa Park,
qui est gros, c'est le mec qui rentre dans
t'as le Silver Star qui fait tourner le monde. Et c'est ça qui rapporte du pognon, parce que les gens font la queue, ils payent leur tixon pour ça, etc. Et puis à côté, t'as It's a Small World où tu fous les gamins qui font genre. Parce que comme ça, pendant que toi t'es en train de faire tes sensations fortes, il y a Mumu avec les gosses qui a peur, qui peut faire ça, et pendant ce temps elle achète trois glaces pendant qu'elle regarde les. C'est exactement ça.
On est le bobsleigh, c'est ça. On est le bobsleigh d'Europa Park.
Ouais, les bûches. Les bûches.
Alors remarque, les bûches en été c'est sympa.
Les bûches, elles
sont rafraîchies.
On aurait dû faire une tribune Disney, pas Europa Park.
Non, mais enfin, ce que je voulais dire par rapport à ça, et pour en revenir à ce que tu disais par rapport à Marc Heller et la communication sur le plafond de verre, c'est marrant parce qu'en fait c'est entièrement l'inverse. Tu disais qu'on avait atteint un plafond de verre, mais en fait là on s'en est mis un, le plafond
c'est
de verre.
C'est Marco qui disait.
Oui,
ah oui.
Non, parce qu'en fait c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que, alors, je vais raconter un truc qui n'a aucun rapport, mais moi je joue encore un petit peu au
foot. C'est deux points Hammerfits.
Moi je joue encore un peu au foot. D'un niveau, alors au fin fond du district de la dernière division. Et tous les ans, il y a un match.
Et il y a Sochaux.
Tous les ans, il y a un match que j'adore.
Il y a Knacky.
Il y a un match qui vraiment qui me tient à cœur par-dessus tout. C'est le premier tour de Coupe de France. Et pourquoi? Parce que je me dis, quand il y a les maillots. Coup d'envoi de ce match-là, je me dis, en fait, je joue la Coupe de France. Je joue le premier
tour. Ouais, exactement.
Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais je peux gagner la Coupe de France. Alors évidemment, je ne la gagnerai jamais. Mais c'est important Mais c'est important que, tu vois, j'ai l'espoir de un jour gagner la Coupe de France.
Totalement.
Et en fait, quand je supporte le Racing, moi, j'ai envie d'avoir l'espoir qu'un jour, le Racing...
C'est exactement ça.
Le Racing est une génération exceptionnelle, gère le club de manière fantastique. Et tu vois, enfin...
Exemple,
tu vas parler, tu vois, genre le Leicester 2016, là. Mm-hmm. C'est 2016, hein. 2016-2017, ouais, c'est pas si vieux, alors qu'il y a 5-6 mastodontes en première ligue, ils finissent devant. Évidemment, ça arrive, c'est très rare, mais... Rien que le fait que de me dire, ça peut arriver. Justement, j'ai pas de plafond de verre, tu vois. Je veux dire, j'ai pas de limite à mes rêves de supporter. De... C'est magnifique.
Non, c'est vrai. Franchement, j'ai la larme à l'œil. Putain, mais c'est bon. Mais t'es bon.
Tu devrais appeler RMC de faire passer pour un mec de Sochaux.
Non, mais rien que le fait, inconsciemment dans ma tête, même si, ok, ça n'arrivera pas, mais que je puisse avoir cette petite idée et qu'un jour ça puisse arriver et que j'ai pas de limite, eh ben, cette idée-là, elle est morte à partir du moment où tu deviens la succursale d'un autre club. Parce que là, ben,
ah, c'est pas possible,
tu deviens l'outil, tu seras l'outil, toujours l'outil d'un autre club. Donc, ce rêve-là, il est, de fait, il est mort, tu vois. Voilà, enfin, pute, si tu veux.
Et surtout, si ça marche pas, enfin, là, finalement, le club, il l'a acheté 75, peut-être un peu plus, le montant exact, on sait pas. Mais, Blueco, depuis qu'ils sont arrivés à Chelsea, ils ont acheté 4, 5 joueurs supérieurs à cette somme-là, finalement. Ouais. Donc, si un de ces joueurs se pète les croisés, pour eux, c'est pas grave. Si le Racing se pète, descend en Ligue 2, qui au bout d'un moment, ils en ont marre, c'est un peu trop de contestation. Ils se barrent, ils ont 100% des parts.
Qu'est-ce que tu fais si un joueur se pète les jambes? Tu l'envoies dans un avion au-dessus de la Manche, paf, tu le craches.
Voilà.
Bah, avec le Racing, c'est pareil.
Non, mais en fait, ils s'en foutent, ils ont aucune attache. Finalement, aujourd'hui, si on était dans une crise financière, qu'un Marc Heller, il serait un peu plus compliqué financièrement. On peut espérer qu'ils se battent pour essayer de sauver le truc. Ou qu'il y a une mobilisation au niveau régional. Si demain, beaucoup, ils veulent se barrer, bah, ils vont laisser déjà une ardoise importante, puisqu'ils vont faire des investissements visiblement assez importants. Hein. On va en parler tout à l'heure. Et s'ils veulent plus payer, bah, ils font cessation de paiement, dépôt de bilan, et basta.
Ils se barrent.
Par tes profits.
C'est de l'économie casino. Et ce qui est dingue, non, si c'est pour de vrai, ça existe dans des tas de domaines. Prenons l'industrie pharmaceutique. Eh bien.
Des connards.
Ouais, les mecs qui bossent là-dedans.
Des entreprises, d'un certain entreprise, qui sont beaucoup plus grosses que les autres. Mm. Pfizer, par exemple. Ces gens-là, comment ça fonctionne? Ils ont un énorme pot de fric. Okay, ils sont là, vraiment un très gros pot de fric. Et ils ont plein de petites boîtes qui font « Ouais, mais nous, on est des biotech, venez, on va vous vendre des super médicaments. » Ils peuvent faire 20 paris.
Ouais.
Okay, ils font 20 paris. Comme eux, ils achètent 3 clubs, 4, 5. Mm. Ils font 20 paris, ils n'en ont rien à foutre, ils ont assez d'argent. T'as des autres boîtes qui sont un peu moins grandes. Mm. Ils ont moins, eux, ils peuvent faire 3 paris. Mais tu t'en fous, parce que quand tu peux faire 20 paris,
qui marche,
t'as remboursé tout le reste, t'as pété la gueule des 19, t'en as rien à foutre. Sanofi, ils en font 3, il y en a un qui foire, c'est terminé, clé sur la porte, merci, bonsoir.
Ouais.
Parce qu'il n'y a plus rien derrière, c'est la même chose.
Et Blueco pèse des dizaines de milliards d'euros, de dollars, donc finalement... Oui, c'est ça. Strasbourg, pour eux, c'est l'épaisseur du trait.
Est-ce que aussi, le foot européen, notamment français, et les clubs valent vraiment tellement peu qu'effectivement c'est un pari qui coûte pas cher. En fait, comme dit, c'est le prix d'un joueur.
Un club sain, comme le
Racing. C'est le prix d'un joueur.
C'est rien.
Genre, quand tu rachètes Chelsea 5 milliards, tu peux tenter Strasbourg à 75 millions, même pour déconner en fait.
Bah oui.
C'est ça. Mais c'est le prix d'un joueur parce que t'as presque plus de chances de faire de l'argent avec un jeune joueur qu'avec un club de foot en fait.
Mais après, il y a peut-être. Donc du coup, est-ce que. On va faire un tour de table, on fait rarement des tours de table.
Par contre, si les Morissettes pouvaient faire un petit tour de table.
Elles sont restées dans les
Morissettes ou des Malissettes?
Ce sont des Malissettes.
Burgard. Est-ce que vous pensez personnellement que derrière tout le côté abject, dégoûtant de ce foot business et du rachat, est-ce que ça peut marcher? Ou est-ce que vous vraiment, moi franchement, là, alors, avec les explications que je retiens, au début, franchement, je comprenais pas vraiment. Moi, c'était un pari perdant. Là, je me dis, il y a des trucs, ok, c'est risqué, mais je vois un peu mieux. Mais je suis pas convaincu que ça marche. Est-ce que quelqu'un pense que ça peut marcher? Ou est-ce que, genre, moi, justement, comme disait à tort, à un moment, ça va couper parce que c'est un pari perdu, mais c'est pas grave.
C'est là où pour pas passer pour des cons dans deux mois, il faut dire oui, ça peut marcher.
Bah non, nous,
mais ça veut dire quoi marcher au fait?
J'en sais rien, mais.
Et à quelle échéance?
Marcher pour le Racing, je veux dire, en fait, c'est ce que tout le monde espère. Et c'est là où tu vois finalement que le principe clé d'une arnaque, ça reste le même depuis toujours. C'est il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Quand tu dis aux gens, ah, on va peut-être garder Djikou, ça marche 3 semaines. Après, finalement, Djikou se barre. On est au milieu de l'été, tout le monde est bourré, donc on oublie. Parce qu'ils ont leur slip sur leur tête au Macumba, au Cap d'Agde, et que. Voilà.
Et la Fiat, la 306 et la Fiat sont garées devant la...
C'est ça, exactement, en warning. Et donc, en fait, est-ce que ça peut marcher pour le Racing? Il y aura peut-être une saison où on verra un gars absolument incroyable qui, derrière, va faire une super carrière à Chelsea ou ailleurs, et on va dire, ah yo, feu Tommy, on a quand même eu ce mec-là pendant un an.
On a eu Djorkaeff.
C'était une légende, il est devenu champion du monde, et un jour il a mis la main au cul de Sylvie de la Conta, tu vois. Enfin, si tu t'adresses au côté très pousse-ballon de la chose, et je dis ça sans aucun mépris, tu te dis, bon, ok, on va peut-être voir du super joueur de football qu'on n'aurait peut-être pas vu, comme disait Seb, avec l'économie des transferts, où on n'aurait pas été capable d'avancer l'argent. Parce qu'en fait, c'est pas tellement une question d'argent qu'une question de trésorerie. T'es pas capable d'avoir la ligne de trésorerie, parce qu'en fait, en vrai, c'est rentable. C'est juste, si tu peux pas, la banque te laisse pas l'emprunt pour acheter la maison qui, derrière, tu vas revendre avec une plus-value.
Dans Monopoly.
Donc, en fait, peut-être qu'il y aura une ou deux saisons qui seront vraiment très bien.
Mais sur le fond, est-ce que Blouko, lui, est-ce que ça a marché ou est-ce qu'au bout de 5 ans, il va dire en fait, non, c'était une connerie, ce truc Strasbourg, ça me coûte de l'argent, ça m'en rapporte pas, ça marche pas, c'est des cons en plus, je coupe. Au revoir, comme à Sochaux, où le mec a dit bah, c'était marrant, mais j'arrête.
Bah, je ne sais pas.
Sochaux, c'est différent quand même, mais bon.
L'actionnaire, à un moment, a dit j'arrête parce que ça me coûte plus d'argent que ça peut m'en rapporter.
Mais peut-être qu'il va se rendre compte que le Melo, c'est un vrai stade de foot, une vraie ambiance. Mais
il s'en branle, comme il est même pas venu pour acheter le club. Le type, il a acheté un truc, en fait, il sait même pas.
Mais il l'a acheté par vidéo, signature électronique.
C'est ça, ouais.
Version SMS.
C'est ça, on lui a envoyé le code par SMS pour envoyer le truc.
Ça s'appelle la CNDP de Shinratsai.
Ça peut être du foot comme ça peut être autre chose, en tant que c'est un business qui rapporte.
Oui,
non, mais est-ce que ça peut marcher pour eux dans leur business plan? En vrai, je ne sais pas. Je pense que la clé de cette histoire, c'est est-ce qu'ils arrivent à mettre la main sur les ligues? Est-ce qu'ils arrivent à mettre la main sur la LFP, sur l'UEFA, et du coup à imposer leur business model, qui est un business model effectivement où ils mettent fin au système des transferts, où ils mettent un salary cap et ils disent en fait les clubs doivent générer du cash plutôt que d'être toujours comme des crevards à courir après le dernier transfert.
Ce serait même pas une mauvaise solution. Ça permettrait effectivement dans ce cas-là d'éliminer tous les parasites du foot du marché des transferts.
Économiquement, encore une fois,
les avocats, les maires,
c'est parfaitement rationnel et c'est la logique d'un championnat bien géré. Les championnats américains, ils ont peut-être certes un peu moins d'authenticité sur certains aspects, mais en fait, je veux dire le mec à Cleveland, ils ont fini par être champion de la NBA une fois. Cleveland, c'est l'équivalent de Mulhouse.
Les Nuggets.
C'est Ripon. Mmh.
Le club s'appelle les Nuggets.
Les Nuggets de Denver, ils étaient nuls pendant des années. Et là, maintenant, ils ont
été champions. C'est quoi, c'est les Cavaliers?
Les Cavaliers,
c'est eux qui avaient
LeBron
James.
Bah oui, c'est ça. Mais ils ont eu
LeBron
James. Et revenu, parce qu'en fait, les patrons de la ligue ont jugé, bon, allez, là, franchement, les pelos,
Ça fait 45 ans qu'ils en chient, ils ont bien le droit de rêver pendant un an.
Bon, si les Pacers pouvaient être champions, ça serait bien aussi, mais...
Et en fait, c'est, d'un point de vue business, c'est relativement rationnel. Moi, j'ai rien contre ce truc-là. Le seul problème, c'est qu'on nous l'impose depuis l'extérieur, qu'on fait sans, et qu'il y a des gens qui font semblant de croire que nous, on va y gagner quelque chose, alors que c'est pas vrai.
C'est tellement bien vendu par Keller.
Oui. Est-ce que Mark Keller, il a pas la double casquette?
Sa présence, oui, il a la casquette de garantie. Ouais. Garantie, je suis là, donc faites-moi confiance.
Non, mais aussi à la fin. Pourquoi est-ce que le,
à la fois garantie et traître.
Est-ce que Blueco n'est pas dit j'investis sur Mark Keller qui a ses entrées dans son optique? Genre, il a ses entrées à la Ligue, il a ses entrées à la Fédé, il a Albert Gemrich. Albert Gemrich.
Bon, là, il y a quand même le problème des notes de frais sur le buffet.
Non, mais est-ce que oui, effectivement, avoir un club avec un mec qui aussi fait de l'entrisme, là, pour noyauter, dans ton optique de ce que tu nous as. Enfin, je pense que là, tous les gens qui écoutent sont fous.
Non, dingue. mais à côté de ça, t'as aussi le John Textor qui est à Lyon, qui a Crystal Palace.
Alors John Textor, ça a l'air déjà beaucoup plus compliqué. Il a déjà commencé à revendre le foot féminin.
Mais il est venu avec cet objectif-là. Et lui, en plus, il veut pas trop mettre d'argent, donc c'est pour ça que pour financer la dette de Lyon,
américain pauvre. Là, quand même, c'est.
Après, il est pas pauvre.
Le truc avec Mark Keller, c'est que si maintenant on fait une saison de merde. Est-ce qu'il sera toujours là?
Ah, d'ailleurs.
C'est toujours là, l'éternelle question.
Question Minitel.
Alors, cette question est posée par Rocoras sur le site racingstube.com. Un site dissident qui publie des t-shirts comme Rage Against the Racing qui devraient marcher s'il ressortait très fort.
Ressorti là?
Ouais. Alors, Killing in the Name of.
Rocoras, le 4 juillet 2023 à 14h28, demandait combien de temps Mark Keller va rester à la barre?
Autant Giscard.
Moi, j'adore.
Giscard à la barre, mais oui.
J'avais discuté avec quelqu'un qui m'avait donné une théorie là-dessus, qui me disait que les fonds d'investissement américains, souvent, quand ils allaient investir comme ça dans des business, ils pouvaient mettre des clauses. Alors, enfin, là, c'est vraiment de la spéculation, j'en sais rien, mais il est souvent question de mettre des clauses pour qu'il y ait un espèce de chef du business qui est en fait l'ancien propriétaire
qui fait un tuilage, ouais,
qui en fait est contraint à rester pour que la vente se fasse et pour faire tourner le business pendant X.
C'était Sochalion sur Stoub.
Ah, peut-être, je sais pas.
Oui, je crois.
Mais
est-ce que Sochalion est supporté à Sochaux?
Les deux, malheureusement. Les deux,
malheureusement. Il lui reste au moins un club.
Et abonné à Nancy.
Il lui reste un demi-club. Ouais, ok. Mais oui, non, mais très intéressant.
Il a la vente de la 306 et le coffre de la 405.
Sochalion a eu une 306, je crois.
Attends,
non, mais continue. Non, j'avais. Je l'avais pas lu sur le YouTube, j'avais pas vu que ça avait été mis aussi. Mais comme quoi, donc du coup, on fait du bisourcing carrément. Mais, alors, vous en pensez quoi ce truc? C'est vrai, c'est pas vrai?
Bah oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. Bah, il y a ce truc de
trop marqué l'air. Est-ce qu'il y a une clause dans la vente du club de
Racing? Mark
Keller doit rester pour toucher ses pépettes.
Je sais pas s'il y a une clause, mais en même temps, je me dis finalement, c'est logique d'un point de vue business. Tu files plein de pognon à un gars pour lui racheter son truc. Tu sais que si tu mets un gars juste derrière, tu vas devoir le payer très cher. Le temps qu'il dégoûte, machin. En fait, tu t'inclus ça dans une marge arrière, vu que déjà tu files du pognon à l'autre, tu lui dis, bah écoute, Michel, tu vas tu vas garder les clés du wagon et progressivement tu vas nous donner le tu vas faire la transition
parce que t'es sûr que le business continue de tourner pendant cette période de transition, surtout qu'en plus ils achètent fin juin.
Mais justement, pas le business, l'opérationnel.
Oui, l'opérationnel.
Le business, c'est la stratégie. Là-dessus, tu peux être sûr que Chelsea, ils ont déjà mis la main dessus. Que les transferts, c'est plus du tout Mark Keller qui s'en occupe, contrairement à ce qu'ils racontent.
Et pourtant, ça le désirait.
Mais Mark Keller, il est là pour effectivement.
Comme c'est Angelo Gabriel à la maternelle, il l'avait vu.
C'est ça.
Mark Keller, il est là pour continuer à rassurer les collectivités, les salariés, les abonnés.
Si c'était tant vrai que ça, on aurait gardé Dimitri Angelo Lienor.
Non, mais ça c'est autre chose encore.
Pour le côté...
Non, mais par contre, le côté collectivité, parce que après la vente du club, les collectivités se sont posées la question du stade et de la révision du loyer. Si d'ailleurs c'est Mark Keller qui retourne place de l'étoile pour aller discuter avec les élus, oui, c'est tout à fait normal. Moi, je leur mettrais à fond le loyer.
Ah, bah carrément.
Et les travaux,
je suis pas élu.
On jamais commencé aussi vite. Hein,
t'as un club patrimonial ancré, j'ai envie de dire ancré dans la région, dans le tissu.
Dans nos territoires,
avec un ADN fort. Bon, bah là, tu lui fais une ristourne sur le stade. Maintenant, t'as une succursale
qui pèse des dizaines de millions d'euros,
exactement,
des milliards de
fonds de pension saoudien.
Tu veux dire que si on mettait un Starbucks dans l'Aubette, ça serait plus cher que.
Ce que je veux dire, effectivement, c'est qu'en gardant Marc Keller, finalement, l'interlocuteur des collectivités, ça reste Marc Keller.
Et des DNA. Ouais, mais...
Donc, c'est compliqué pour les collectivités d'aller faire x3 sur le loyer.
Et en fait,
si ouais, c'était, c'est ça. Si c'était, je sais pas,
et c'est ce qui
Mark
c'est...
Smith
de Boston, je pense que c'est ce qu'il faut faire quand même.
Michel,
c'est bien. Ouais. Maintenant, on
Mark
sait...
Cave.
Voilà, maintenant c'est fini. Maintenant, on multiplie par 10.
Non, mais je vais vous expliquer mon lapsus sur Michel. Parce qu'en fait, Marc Keller, c'est Michel Drucker.
Ah, immortel. Ah.
Est-ce qu'on les a déjà vus dans la même pièce?
Voilà. Pas sûr. Non, mais je m'explique. J'ai lu un article il y a quelques années sur Michel Drucker qui m'avait beaucoup impressionné, qui était qu'en fait ce mec avait une image extérieure absolument géniale, oui. Le gendre idéal, le fan des vedettes, et qu'en fait ça faisait 40 ans qu'il savonnait la planche à tout le monde parce qu'il avait tellement de potes que dès qu'un gars commençait à monter un petit peu, il appelait tout le monde pour le pourrir. Et il avait un tel pouvoir que les gens continuent à lui sucer la bite comme c'est pas possible. Parce qu'en fait, du coup, c'est extrêmement compliqué de s'attaquer à lui. Et en fait, le gars est arrivé à un niveau de puissance qui fait que c'est beaucoup plus simple de failloter avec lui pour récupérer des miettes que d'aller en frontal. Et genre, typiquement, il y avait des trucs sur, genre, je sais pas, à un moment, Delahousse avait essayé de le niquer sur un truc sur la 2 et tout, il avait appelé 3 gars, dont Sarkozy, derrière Delahousse, et en gros, il y avait 3 gars qui l'avaient pris dans un parking avec une barre de fer et qui lui avaient dit, tu vas être gentil, mais tu peux faire des 13h15, mais tu fais pas chier Michel. Et en fait, Marc Keller, c'est exactement ça. En Alsace, tout le monde lui mange dans la main. Je ne sais pas comment il a ce magnétisme, c'est incroyable.
Il est bien coiffé.
Il a, mais en fait, du coup, et en fait, voilà, on en a parlé dans une émission précédente qui date déjà d'il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que chez Marc Keller, il y a cette dichotomie monstrueuse entre une image extérieure, mais incroyablement lisse, consensuelle, beau gosse, sympa, on tape dans le dos, et quelqu'un qui, en fait, en vrai, est extrêmement dur.
Et les gens qui ont eu à travailler avec lui peuvent confirmer.
C'est ça. Et moi, je vais décrire.
Et les gens qui lui ont fait des factures. Encore pire.
Voilà. Et moi, je vais raconter un truc qui m'est revenu ces dernières semaines et qui, à l'époque, m'avait laissé sceptique, qui date déjà d'il y a une dizaine d'années, qui, en fait, ceux qui fréquentent un peu les tribunes de la Méno connaissent notre ami Plutonium, Thierry Poléviac, qui est quelqu'un de, voilà, qui connaît, qui aime sincèrement le racing, etc.
Depuis très, très, très longtemps.
Depuis très longtemps, mais qui, effectivement, on va être franc, paye pas de mine. Et je me souviens
d'où son surnom
Plutonium. Mais effectivement, je pense que c'est pareil. On peut pas lui nier le fait que le mec, c'est un amour du racing, qu'il a été à tous les matchs, qu'il est connu, qu'il fait partie de cet environnement autour du racing. Et en fait, j'ai le souvenir de Marc Keller dans le salon de président à une espèce de réunion inter-asso qui se fout ouvertement de sa gueule en étant extrêmement obséquieux avec lui, en l'appelant Monsieur le Président, parce qu'il était président de je ne sais quel micro-assos scission du CCS. Et en fait, tout le monde se rend compte autour de lui qu'il se fout de la gueule de Plutonium. Et quelque part, à la limite, quand t'es dans... franchement, on s'est tous un peu foutu de la gueule de Plutonium un jour dans notre vie. Mais à notre niveau de crevard, ça se comprend. Quand t'es Marc Keller, quel besoin t'as besoin de faire ça? D'humilier un mec devant tout le monde?
C'est une merde.
Voilà. Et en fait, je sais pas pourquoi ce truc m'est revenu. C'était enfoui dans ma mémoire, et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ce côté, genre, en fait, soit tu me sers à quelque chose, et là, je vais te serrer la paluche, et on va se taper dans le dos, et mon ami, machin, les collectivités, mon truc, tout ce que tu veux. Soit, effectivement, je vais te pressurer, et il a fait ça avec beaucoup de salariés du club,
oui.
Soit je te méprise, et alors là, effectivement, j'ai aucun scrupule à me foutre de ta gueule comme une merde. Mais, en fait, les gens... Ils aiment retenir le côté valorisant du fait que cette personne importante, charismatique, consensuelle fasse semblant de s'intéresser à lui. Et j'ai encore le souvenir de ce pauvre Plutonium qui hochait du bec devant le gars qui se foutait ouvertement de sa gueule. Et en fait, humainement, c'est dur, quoi.
Enfin... Oui, mais il faut voir tous les cadres du Racing qui sont partis. Enfin, après, c'était plus ou moins public, mais le départ de Romain Giraud, c'était pas très propre non plus. T'avais des directeurs commerciaux qui sont restés qu'un an parce qu'ils en pouvaient plus, parce que voilà, tu fais du 60 ou 70 heures par semaine, parfois bénévolement. C'est l'argument, voilà. T'es moins bien payé que dans n'importe quelle autre boîte. On te dit, mais sois content, tu bosses déjà au Racing. Donc, oui, c'est pas évident de bosser avec Marc Keller, et t'as des exemples, beaucoup. Mais je sais pas pourquoi, mais les gens balancent pas.
Mais enfin, en off,
ça bah, c'est Michel, le syndrome Michel Drucker.
Ouais, c'est ça.
Mais exactement.
Bah, si veulent continuer leur carrière dans le coin, oui, c'est compliqué.
Voilà, pour moi, Michel Drucker était mort depuis très longtemps. Mais
attends, et rappelons aussi, le pire, c'est que Marc Keller est pote avec Pierre Ménès. Mmh. Ça.
Oui, mais ça. Et le Gretz.
Et le Gretz.
Alors, bon, alors, est-ce que on est combien de timing?
Ouais, voilà, c'est la première.
Alors, j'ai encore une théorie là-dessus.
Ah, sur le timing?
Non, pas sur le timing. Sur le cercle proche, j'ai la théorie du canari dans la mine.
Ah.
Oh.
Les mineurs,
exactement.
Les mineurs, quand ils descendaient au fond, ils avaient toujours un espèce de canari. Et en fait, quand ils voyaient que le petit oiseau claquait, ils savaient que ça allait tourner mal et qu'il fallait qu'il remonte. En fait, la vraie question, c'est qui est le canari dans la mine? Et j'ai plusieurs candidats, dont qui sont François Keller.
À son propre frère.
Son propre frère. Il y a un côté faustien.
C'est magnifique.
Bah, c'est vrai que le jour où François Keller se barre, là, ça pue. Ouais.
Zimanski.
Ouais.
Oh.
Arnaud.
Son fils.
Son fils. Le frère de sa femme. Ouais.
Et alors, c'est, il y en a deux,
Et Sabrina, ou pas?
Non, pas Sabrina.
Pas Sabrina.
Non, mais c'est j'en avais un troisième, mais en vrai,
Sabrina, j'ai c'est le point ICS, mais on peut dire qu'elle survivra.
J'y ai pensé sur le vélo, mais je l'ai oublié entre temps.
Guy, peut-être.
Ah, Guy.
Guy, oui, exactement, c'est le troisième.
Guy,
ouais. Voilà, Guy Fagenbrügel, qui est quand même un mec, voilà, CCS historique, etc. Exactement. Donc pour moi, c'est les trois canaris dans la mine. Alors tu peux être sûr que dès qu'un des trois pète, là, ça sent très très fort, quoi.
Ouais.
Eh ben, on fera une alerte canari sur Twitter. Dès qu'il se passe quelque chose, des gens, tenez-vous prêts.
Mais juste sur François Keller, qui, pour le coup, ça serait vraiment significatif, c'est que finalement, si c'est Blueco ou Chelsea qui décident de mener la politique de formation, enfin, c'est sûr qu'ils se barrent. Et c'est, là, tu peux être certain que le Racing n'est plus vraiment qu'un outil. Ouais. Et ils auront bon faire la communication qu'ils veulent. Ça...
Et Loïc Désiré pourrait aussi être un canari.
Bah, Loïc Désiré est moins attaché au club.
Le Gizeri pourrait être
quelqu'un de très sympa. Hein,
pourrait très bien bosser à Chelsea.
Ouais, quand tu prends les trois dont on a parlé, c'est quand même des gens
qui sont viscéralement attachés au club.
Voilà,
il y a même l'idée, selon certaines voix, que Keller finirait par présider Chelsea parce que Blueco serait convaincu de ses compétences.
Ouais, parce qu'il a joué à West Ham.
Il a joué à West Ham, voilà, je peux pas avec le
panache. C'est la logique des mecs.
Chelsea ayant été. Il y a une gestion assez poussive durant 6 mois. Ils se disent, tiens, on a peut-être besoin de compétences. Donc, Marc Keller.
Et Franck Sauzin, je
veux
bien voir.
À Hibernians.
Voilà.
C'est trop loin de Londres.
C'est trop loin. Il y a un train.
Avec Lienard comme directeur sportif. Voilà, donc peut-être.
Est-ce qu'on parle un peu du sportif? On va aller très vite sur le sportif parce qu'il y a le quiz.
L'entraîneur. Il y a l'entraîneur.
Alors, première recrue.
Question Minitel, l'entraîneur. Vas-y, dis-le.
Non, mais je veux dire, première recrue, question Minitel.
Voilà, première recrue, question Minitel. Et non, c'est pas Ross 3, c'est Super Dohu.
Ross 88.
Super Dohu de RacingStu.com.
Super soft.
Le 4 juillet 11h14, Vieira, une arrivée avant tout pour avoir un nom ou pour ses compétences? C'est une très bonne question.
Effectivement. Vieira, qui est convaincu?
Alors d'abord, on explique aux gens, peut-être la génération.
Patrick Vieira.
Patrick Vieira, c'est une personne qui a gagné un trophée, un prochain tournoi.
Deux trophées en plus.
L'Euro.
Avec l'équipe de France, après des
trophées. Il a gagné la Coupe des Confédérations aussi.
Ah ouais, 2001.
Avec Yann Carrière.
Je crois qu'il a donné la.
Nicolas Gillet.
Il a gagné la croûte noscope.
Mais du coup, il n'était pas hier.
C'est
ça. La croûte noscope, c'était.
Il a vidé des bières avec l'IECS.
J'ai fait la première.
C'était pas l'IECS,
Mais du coup, question
non,
a-t-il participé hier au match des champions du monde?
Bah non.
Ah
non,
il bosse.
Non, il bosse, oui.
Bah j'espère que non, oui.
S'il a déjà pris un RTT deux semaines après être arrivé, ça l'a foutu.
Est-ce que Vieira est une bonne recrue au poste d'entraîneur?
Ce qui est sûr, Vieira, c'est que c'est un nom en Angleterre et qu'il a entraîné aux États-Unis. Mais je ne répondrai pas à la question.
Il connaît la multipropriété avec le groupe City.
Mais la question est intéressante. Est-ce que Patrick Vieira est venu juste pour son nom d'ancien joueur ou pour ses compétences? La question des compétences se pose parce que finalement, il sort d'expérience assez mitigée. Bon, même si à Crystal Palace, c'était plutôt correct comme travail parce qu'il a, enfin, il a assez peu de moyens.
Ouais, il a fait un an et demi ou deux ans et demi.
Ouais, alors, il a changé quand Textor est arrivé, enfin quand le fond de Textor est arrivé. À Nice, il a aussi connu la transition entre les deux multipropriétés, enfin le Pacific Capital et Ineos. Donc à chaque fois, il s'est fait un peu
pas de chance.
Bah, il s'est fait un peu pousser par, si par la porte à chaque fois.
Moi, je sais. Une holding de sa réunion, on va prendre le Racing et il va faire la transition encore. C'est rouge,
Schneider électrique.
Mais en tout cas, la question se pose vraiment.
Mais la multivitamine.
Moi, j'avoue, j'ai pas vraiment de position sur les compétences réelles. Je pense que pour un club du standing du Racing, peut-être du standing du Racing d'avant, ça reste un entraîneur assez bon. Enfin, voilà, c'est bien, mais pas top. Après, il a été, il a été pris quand même pour son nom, ça, on va pas se mentir. Je suis pas sûr qu'avant le rachat, il s'était resté sur un modèle sain économique. On aurait pris un Patrick Vieira, on aurait peut-être pris un Philippe Montagnier, par exemple. Voilà.
Alors, en fait, le truc, c'est que, c'est pareil, moi, Vieira, j'ai pas la prétention de juger ses qualités d'entraîneur. Je sais même pas si j'ai eu un match de lui en tant que coach. Donc, bon, accordons-lui bénéfice du doute, ça a été un très bon joueur de football et il a une certaine expérience.
T'as pas vu un Strasbourg-Nice,
si, ouais, si, peut-être avec Balotelli, voilà. Qui avait la main dans le short et qui se repositionnait pas, qui a passé tout le match hors jeu. Oui, celui-là, je m'en souviens bien. En fait, le problème, c'est que moi, ça va au-delà. Si on revient à cette histoire, quel est notre ressenti par rapport au statut du club ? Qu'est-ce que le Racing Club de Strasbourg peut représenter pour un mec comme Patrick Vieira, qui a été joueur d'Arsenal, de la Juventus, de l'Inter, etc. Enfin, lui, il voit ça comme une espèce de truc de passage. Et c'est très, très différent de tous les entraîneurs qu'on a eu précédemment.
Il a marqué son premier but en pro, en D1.
Strasbourg, ouais. C'est très très différent de. Tu vois, un Thierry Loret, pour lui, Strasbourg, ça reste le climax de sa carrière. Et ce mec, avec tous ses défauts, a incarné ce club. Il l'a vécu avec ses tripes. Parce que pour lui, être entraîneur de Strasbourg, c'était. Et même un Julien Stéphan qui était un peu à la relance, pour lui, c'était quelque chose. Ouais. C'était important. Le score d'être pareil. Antonetti a fait d'une certaine façon le job, mais Patrick Vieira, en fait, il vient là dans un an et demi, il peut être ailleurs. Lui, il fait effectivement partie d'une espèce de mouvance mondialisée. Strasbourg, il s'en branle, concrètement.
Il peut être ailleurs. S'il est en échec à Strasbourg, on se posera quand même une question, parce que il peut avoir son statut champion du monde.
Il peut être.
Il sort quand même deux expériences mitigées. Moi, je le voyais pas, par exemple, je voyais pas un club européen.
Non, mais il le sera en échec. Ces mecs-là, c'est des experts du cash flow. Enfin, tout ça, je suis d'accord. Ils sont super bons là-dedans. Ils gèrent Chelsea comme une merde. Je pense que Patrick Vieira, ils l'ont pris pour le nom. Ça n'a rien à foutre. Le mec est nul à chier. Et c'est ça. Ça va être ça le résultat.
Je pense qu'il y a quand même une valeur en tant que technicien. Tu peux pas non plus
mais
dire.
C'est possible, mais
l'an prochain, il est en Ligue 2 à Toulon avec Hassan Sako.
Exactement. Encore une fois, on se base sur les faits. Ils ont fait de la merde à Chelsea pendant 12 mois. C'est tout. Alors tout d'un coup, ça avait le magicien à Strasbourg.
Mais oui,
parce que Marc Keller est là.
Mais bien sûr,
le sondage sur le Stoub. C'est peut-être une bonne opportunité. Ouais. Marc Keller, il veille. Il y a beaucoup de monde qui a cliqué juste en voyant cette phrase. Marc Keller, il veille.
Ah, mais moi, j'ai une question. Dès qu'il y a Marc Keller dans une réveil, je me
sens. Bah, ouais,
amen. Et quand il mourra, Marc Keller.
Non, mais en vrai.
Il va apparaître en halo comme le père de.
Comme Gilles Lagresse.
Comme Gilles Lagresse. Au-delà des qualités de Vieira et de savoir s'il va se planter ou non, le fait est que, manifestement, il a été pris à l'arrache.
Mais vite.
Et c'est très, très différent.
Salut l'arrache.
Exactement. Avec un œil qui dit merde à l'autre.
Ça, c'est la gueule.
C'est très très différent de. Franchement, quand Thierry Loret a débarqué, le mec était allé voir le match à Raon-l'Étape, à Épinal, Racing contre Raon-l'Étape. Il savait tout du Racing et tout. Enfin, ce type était. Il avait beaucoup de défauts, mais c'était un psychopathe du football. Julien Stéphan, il a fait un round de 5 entretiens pour niquer Gourvennec et les deux autres et prendre le poste, et il les a vraiment convaincus à l'époque, et effectivement.
T'imagines le malade mental, aller voir Bongeleux.
Mais oui,
tu te rends compte.
Non, mais c'est un bosseur, c'est pour ça.
Voilà.
Et Vieira, tu sais pas.
Vieira, le mec, en fait, ils ont dû le contacter, mais une semaine avant, c'est pareil.
Déjà, la façon dont Antoine était parti, là aussi, c'est assez trouble.
Ah, c'est Antoine qui voulait pas rester, tu
sais. Voilà, il s'est dit.
Je vois
un peu le loup arriver, donc je préfère retourner dans ma bergerie.
Il a de la fierté, lui, c'est pas une lopette.
Il a une expérience à Lille où il s'est fait lourder assez rapidement quand il y a eu changement de propriété.
Alors je sais pas si c'est sorti pour le coup, mais. Marquella voulait garder Frédéric Antonetti quand
même.
Il est allé jusqu'à Bastia pour essayer de le convaincre de rester. C'est Antonetti qui voulait pas.
Et c'est là où il a lâché Dimitri Diénard.
Il a dit, mais je t'ai pas. je te montre la Corse.
Ah, regarde, il connaît le nid au gros de chou.
Écoute, Dimitri.
Je te laisse avec l'entraîneur. Très doux, hein.
Écoute, Dimitri.
Pour le bien du club.
Les cochons sauvages.
Bon, ceci dit, il s'est auto-contredit, Marc Keller, encore une fois, dans la conférence de presse à la Méno. Justement sur l'épisode de comment ça s'est passé d'un point de vue chronologique. L'accord avec
Fredo.
Et le téléphonage à Pat. Donc je revoyais là, je vais pas vous la résumer, elle dure 42 minutes, c'est facile, c'est pas long. C'est à une série sur Netflix.
Il a dit qu'il a contacté Patrick Vieira uniquement quand c'était fini avec
voilà. Frédéric Antoine. Sauf qu'en fait, après, il s'est emmêlé dans les jours et 5 minutes plus tard, il dit en gros l'inverse.
Non, pour le coup, c'est vrai, il a contacté Vieira seulement.
C'est possible, mais il se mélange, je suis désolé.
C'est sûr qu'Antonetti, il restait un an de contrat, Migo Proprio, la moindre série de défaites, ça sentait pas bon pour lui.
Oui, mais c'est ça. Bah, il aurait été dans le même cas que Vieira à Crystal Palace ou à Nice, hein, l'entraîneur en place qui saute dès la première vague.
Donc, mitigé sur Patrick Vieira.
Wait and see, comme on dit aujourd'hui.
Voilà. Au niveau des recrues, je pense que le tour va être assez rapidement fait.
Deminguet.
Jesse Deminguet. Il a une cathédrale tatouée sur le bras. Il a 12 frères et sœurs.
dont Fredo Gilbert.
Fred Gilbert. Bon, voilà.
Qui a l'air très content d'être là, lui, au moins.
Ouais, franchement, Deminguet, ça me sent un peu comme Nicolas Duchesse au PSG. Qui arrive gardien numéro 1. En fait, il y a Sirigu qui débarque, il y a plein de mecs qui débarquent, et le club change totalement de dimension.
Sauf que.
Et lui, il est juste là pour porter les cônes à la fin de l'entraînement. Donc, Deminguet, je le mange.
Il est plus là, Pierre-Lescure, tu sais, enfin, il arrive. Qu'est-ce qui se passe?
Okay.
Il tire des coups francs, non, Deminguet?
Oui. Jesse Deminguet.
Oui, Deminguet.
De main gauche.
Voilà, est-ce qu'on a.
J'essaie des baguettes, Lucien Morel.
Ali Benbabrouk.
Non, mais en fait, en termes de recrues, par contre, c'est plutôt le flux inverse. C'est-à-dire que tout le monde se barre. Un des trucs qui.
Il a ouvert la porte. Ouais.
En fait, il y a. Moi, il y a deux choses que j'ai entendues quand il y a eu le rachat qui ont immédiatement rassuré une bonne partie du bon peuple. C'est Marc est toujours là. Il est toujours là pour multiplier les pains, chasser les marchands du temple, baiser les trucs du lac Tibériade,
transformer l'eau en bière.
Voilà, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est on va garder Djikou. Ouais. Résultat.
Et Sanson et Gamero.
C'est ça. Djikou ouais. Est à Istanbul. Hein,
c'est un bon transfert.
Hein. Oui, tout à fait. Enfin,
Ouais, pour nous, pour lui.
Il a raison.
C'est quoi, du fil blanc ou de.
Non, mais en fait, ils ont énormément misé.
Ils essaient de devenir le nouveau Pascal Loma.
Ce truc, on va garder Djikou. Honnêtement, si le projet avait été un tant soit peu sérieux sur le projet club, et s'il y avait eu autant de pognon aussi rapidement, un mec comme Djikou, évidemment, il serait resté. Mais Djikou.
Bah alors, il faut voir.
Il y a eu deux, trois semaines de flou quand même.
Il faut voir aussi ce qu'on lui propose, hein, parce que du coup, si c'est pour l'augmenter largement, on a d'autres dans l'effectif qui iront aussi être augmentés. Il y a aussi un équilibre après à tenir.
On va le faire péter la grille salariale.
De toute façon. Après.
Ouais.
Mais après, a priori, il y a une offre pour Djikou, c'est ce que Marco avait l'air de dire.
Mais hein, pas une offre formelle, visiblement. En fait, c'est ça qui me donne déjà un doute dans leur discours et où je suis d'accord sur le fait qu'ils ont l'air de gérer leur truc comme des merdes. C'est là, s'ils sont un minimum intelligents, vu que ce truc était cousu de fil blanc depuis des semaines, ils disent on va garder Djikou et derrière, deux jours plus tard, ils annoncent ah bah regardez, Djikou reste. S'ils savent que le gars va se barrer, pourquoi ils appellent leur pote des DNA pour laisser courir ce bruit pour au final faire un faux effet d'annonce? Déjà, ça incite à une certaine forme d'inquiétude. Là, je suis même pas en train de te parler de stratégie sportive ou financière, je te parle juste de pur com. Mais ce qui est fou, c'est que ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, on a tout le monde, on va peut-être garder Djikou. Et j'ai entendu plein de gens qui m'ont dit, ouais, putain, maintenant on a du pognon. Tu t'imagines, à l'époque, avec l'ancien système, on aurait été.
On n'aurait pas gardé Djikou.
Maintenant, il va rester. Et finalement, il part et tout le monde fait mais ça va, c'est des Américains, ils ont du pognon quand même. Hein.
Il part pas non plus, il part pas au Levski Sofia. Hein, je veux dire, il part dans un club qui joue une Coupe d'Europe, dans un club avec une grosse endroit, un gros club quand même.
Et je pense que. Je pense que miser sur la connerie des gens, c'est toujours gagné.
Mais en fait, ça me fait beaucoup réfléchir sur cet épisode McCormack. Parce que quand t'entends maintenant tout le monde qui a vécu cette époque Marc Cormac, t'as l'impression que les types ont pris le maquis dès septembre 39. Hein.
Ouais.
Les Allemands étaient même pas là. Ils étaient déjà dans la forêt
avec leur Sten en train de mitrailler tout le monde, tu vois, et tu te dis putain, les Alsaciens c'est quand même des mecs super radicaux quoi, les gars c'est tous des résistants, ils étaient tous contre Proisy dès avril 97 quoi. Et là inversement tu vois le truc, tout le monde est là genre c'est, et ça aussi entre yo, faut voir, hein, on sait jamais, ça peut peut-être marcher, c'est chaud. Et aussi le côté genre, non, mais il y a de l'argent, faut vivre avec son temps.
Attention, enfin, y a tort qui a pris.
Et à l'époque, tout le monde a fait la même chose avec McCormack. En vrai, il y a eu un nombre incroyable de gens qui ont sucé McCormack pendant des années, avant de se réveiller un an et demi plus tard pour dire, ah putain, Trotman, quelle pute, tu vois. Et maintenant, tu les entends, ils étaient tous dans le maquis dès la première heure, quoi.
Et les résistants de 45. Il y a un autre élément de langage sur un vrai faux départ qui, enfin, un départ qui ne s'est pas fait, c'est sur Habib Diarra. Je confonds pas avec Habib Diallo.
Ou Habib Bey.
On a sorti l'histoire d'une offre de Lens qui n'a jamais vraiment eu lieu. Hein. Enfin, il n'y a jamais eu vraiment d'offre pour Habib Diarra. Mais l'élément de langage, c'était de dire, ouais, mais on a refusé 20 millions d'euros de Lens ou de je ne sais qui. Si on n'avait pas été vendu aux Américains, jamais on l'aurait vendu à 10 millions ou à 5 millions. On aurait donné de l'argent. 15, voilà. Ouais. Mais en fait non, enfin, le Racing, déjà l'an dernier, donc on ne parlait pas d'Américains, le Racing a été capable de refuser 10 millions d'euros sur Matsels. Rennes a fait une offre ferme qui est arrivée vraiment, et on l'a refusée. On est capable de refuser des offres, même avec un système économique sain et sans Américains.
Pas toutes les offres.
Pas toutes les offres, hein. Oui, mais quand l'offre... Mais il oui, y a des offres que tu refuses pas.
Il y a des offres où forcément tu te mets autour de la table.
Mais en tout cas, Diarra, quoi qu'il arrive, même si on n'était pas vendu, enfin, à moins d'une offre extravagante d'un club anglais quelconque, 40 millions d'euros, on l'aurait vendu. Mais à 10, 15, 20, même 20 millions, il n'était pas question de le vendre.
On a changé, on est dans une nouvelle dimension.
Non, mais maintenant, l'élément langage, c'est de dire c'est grâce aux Américains, on peut garder nos pépites, on peut garder un Doucouré, on peut garder un Diarra, on les aurait gardés quoi qu'il arrive.
Juste pour revenir à Djikou, je ne suis pas certain que le Racing voulait tant le garder que ça.
Non, mais il fallait pas communiquer dessus.
Ils ont communiqué. Oui. Et là, il y a un côté. Enfin, je suis désolé.
Mais
chez Marco, la communication.
Est-ce qu'il n'y a pas un truc vital, bicéphale maintenant entre Marco qui fait sa propre com pour ménager le bon peuple et les Américains qui disent Djikou, j'en ai rien à branler. Tu peux dire ce que tu veux en com, on ne mettra pas un centime sur un mec qui ne pourra pas jouer à Chelsea.
Ça va même au-delà. C'est-à-dire que tu as ça. T'as les Américains qui, honnêtement, je pense, s'en branlent complètement de savoir si Djikou a mangé ses céréales au petit déjeuner ou pas. Que ça leur passe au-dessus. T'as Marc Keller qui raconte tout et son contraire et ça marche très bien parce que les gens continuent à croire à Marc Keller. Et t'as, putain, je suis désolé, mais la presse régionale.
Ah oui, silence radio. Enfin,
le niveau de.
Le niveau au mois de juillet, ça a toujours été difficile. Mais
Godin est plus là.
Ouais, là.
Non, mais Godin, je sais pas, ils l'ont mis sur le.
Mais eux, ce sera les premiers rasés. Hein. C'est je veux dire, quand ils seront partis, ce sera.
Je sais pas où a disparu Godin, je sais pas s'ils l'ont mis au lit provental à l'Embac, là, avec tous les gens qui ont du mal à ventiler, ou, mais je sais pas. Mais... Putain, mais c'est incroyable.
Sébastien Keller et Cédric Carrieu.
Alors, Sébastien Keller, il est génial, parce que, genre, je crois, dans un article, 2-3 jours avant le rachat, il réussit encore à poser son pote Sébastien Loeb. C'est incroyable. Genre, je pense que ce mec, il a un pot d'échappement à la place de la bite, quoi. C'est pas possible.
Ça va se fâcher que les DN.
C'est incroyable, quoi. Non, mais les DN, c'est déjà. Mais en fait, c'est incroyable, c'est que même à l'époque de Jaffar, ils ont un côté genre, mais on est toujours du côté du manche, aussi petit soit-il, parce que Jaffar, il avait quand même un petit manche. C'est d'une médiocrité, mais innommable.
Vous avez commenté la Coupe du Monde féminine aussi. Ah.
Mais alors, honnêtement, Lucille, dans tout ça, est quand même la moins pire.
C'est vrai.
Elle nous écoute en plus. On va saluer.
Tout à fait. Salut aussi.
Et elle commente pas la Coupe du Monde.
mais c'est vrai qu'à l'époque de. À l'époque de Jaffar, t'avais les DNA François Namur qui
recevait les fax, il surlignait, il corrigeait les fautes d'orthographe, il publiait, et la seule qui disait qu'on va déposer le bilan, c'était Lucille, effectivement.
Non, c'est Stéphane Godin.
Et Stéphane Godin, c'est vrai, tout à fait.
Comme c'était encore les rédactions séparées à l'époque. Tu lisais les DNA le matin, tu disais, oh, tout va bien au Racing, on est au mois de 2011, tout va bien. Tu lis Godin, c'est le Racing a fait à 100, et c'est Godin qui avait raison. Mais là, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Enfin, les DNA, là, c'est. C'est pas eux qui vont creuser sur l'intérêt.
Visiblement, cette histoire de vente, c'était quand même un secret de polichinelle, parce que ça courait quand même déjà au moment du match du PSG.
À partir du moment où Marc Keller a dit. C'était un simple déjeuner, tout le monde savait que le club était vendu.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est
en vrai.
Prise de contact.
Voilà, mais en vrai, tout le monde a fermé sa gueule. Donc, en fait, en vrai,
c'est
les gars.
Parce que c'est Michel Drucker, on revient à ça.
Mais c'est ça. Mais même si, tu vois, si même nous, à notre niveau de crevard, on était vaguement au courant et on se doutait qu'il y avait un truc qui puait un peu. Putain, mais les journalistes, les gars qui sont dans la politique, tous les types qui tournent un peu plus près du bordel, savaient, mais.
Peut-être qu'ils en ont strictement rien à foutre.
Ça doit jouer.
C'est pas impossible.
Ça doit jouer. C'est pas impossible. Ne jamais miser sur le fait que les gens n'ont rien à branler.
Ils sont juste là pour venir prendre le parapluie, le buffet, Albert Gemrich, voilà. Enfin,
tu parles de politique. J'ai regardé le dernier concert de Eurométropole. Je vous invite à le faire. C'est toujours très bien. Il y avait à la fin.
Regardez plutôt la conférence.
Il y avait une interpellation de.
Jacques
Lubovitz. Non, laisse-moi. Il y avait. Il y avait une intervention d'Anton Splett qui est conseiller.
Exact.
Mais pour le coup, qui posait la question de voilà, notamment à partir de quel moment les élus étaient au courant. Et Vincent Debesse, il avait été informé de la vente. Je crois que c'était le 20 juin, donc genre deux jours avant l'annonce officielle.
Il se fout de la gueule. Mais je vais vous dire, Vincent Debesse, depuis la vente, je le vois plus au Lidl.
Pour rester sérieux, juste Vincent Debesse, qui est vice-président de l'Eurométropole, qui est propriétaire du stade pour lequel il y a 160 millions d'euros d'investissement public
prévu.
Non, pour le coup, c'est sur les marchés.
Je dis, ça sera plus cher.
Bon, après, il y a les révisions de prix, mais bon, ça c'est.
Bah, on peut le faire à 200.
Non, ils n'auront pas ça, c'est encadré.
C'est marqué 100, je vous le fais à 100.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que les élus locaux qui sont quand même censés tenir au fait, oui, ils mentent. Mais.
Allez
Non, mais. En fait, tout le microcosme était au courant, il n'y a rien qui est sorti, en fait, tout est sorti dans l'équipe finalement. C'est l'équipe qui sort la vente. C'est l'équipe qui sort le fait que Mark Keller était à Chelsea. Non, quelques semaines avant. Mark Keller qui est à Chelsea, on l'apprend pendant le match du PSG, justement.
Ouais, tout à fait.
Ouais, juste avant, je crois.
Juste au moment du but de Gamero. Comme pour un
coup de sifflet final. Mais en fait, tout ça, ça datait de quelques jeux de plusieurs semaines avant. Et rien n'est sorti. Alors, est-ce qu'il y a une omerta? Est-ce que c'est Mark Keller qui tient ses
mots?
C'est tout. Il n'a pas besoin de tenir les gens. Mais est-ce qu'on peut faire une incise qui va faire perdre un peu de temps? Vous avez lu dans le Républicain, Laurent?
Le stade.
Est-ce qu'on parle de pognon
sur le stade,
public?
Oui.
Ah, j'ai pas lu l'article.
Alors,
ça s'explique.
Il y a une polémique.
Pas abonné au Républicain, Laurent.
Est-ce qu'on peut expliquer la polémique?
Non, mais c'est une polémique.
Parce que c'est aussi drôle que Colmar et Grischka à l'époque.
Ah, c'est les mêmes.
C'est la même chose.
Et Mélou,
on revit la même chose.
Mais le FC Metz, c'est un bailleur phytéotique sur le stade, donc c'est normal que ça soit eux qui fassent les travaux.
Le FC, c'est des cons.
Oui, un bailleur phytéotique, c'est forcément long.
C'est pas 99
aussi. C'est 50 ou 99. Ah,
voilà. On leur explique aux gens, on s'en fout.
Non,
on
s'en
fout. Ah, Mathéo l'a expliqué sur
tout. Ginestet, ah, ouais, t'avais raison, il fallait faire un nouveau stade. Ouais. J'aurais pas eu tout
ça. Ok, alors on l'a fait pas.
Côté du GCE.
Donc voilà.
Ouais.
Marc Keller.
Alors, niveau recrue sportive, donc
on va mettre 20 millions d'euros sur Abakar Sylla, le joueur du club Bruges.
Tout ça pour que le club fasse un jeu de mots, quoi.
C'est assez choquant, quand même. L'entrée de Racing Stoom.
C'est ça.
Oh, on n'a pas 5 heures, quoi. On va mettre 50 sur Sanson.
On va mettre 20 millions d'euros sur un joueur qui a.
Sur Sanson qui va signer à Lille.
Il y a 25 matchs en pro.
On va faire comme les clubs anglais, en fait.
Lille prend Ben Taleb, a priori, donc.
Voilà. Au moins, on a déjà la chanson pour le joueur, ça fera très Chelsea.
Ouais. Il y a d'ailleurs Rose 3, parce qu'on l'a pas cité.
Il fait
une chanson qu'il propose à Chanchon sur Twitter. Abakar, stop les buts. Non, c'est pour citer Rose 3, sinon.
Sinon on n'a pas l'argent à la fin, c'est compliqué. Ouais. Les fonds du FEDER pour les Vosges, on va tenter de tourner une partie.
La réforme de la PAC.
Je pense qu'on peut passer au cul. Les départs. Ah oui, les départs.
Alors, nous pleurons.
Dimitri,
on oublie Dimitri Yenard.
Monsieur Turpin.
Poussez-vous. Dit, là, on pense à lui aussi.
Ah oui, il est pas parti,
mais il est toujours là.
Non, mais par rapport à Dimitri, non.
Donc voilà, Yenard, 10 ans au club, et on va faire 30 secondes sur Radio Stoub.
On a fait un bouquet, un match, un tifo,
où il ressemble à un machin des Goonies, là. Ouais, mais voilà, c'est super.
Mais c'est dommage comment le match contre Paris, on n'est pas officiellement dit que c'était son.
Ouais, ça aussi, tout le monde le savait.
Tout le monde le savait.
Il faut l'annoncer.
Les gens du stade le savaient.
Enfin, à partir du moment où il y a un tifo dans le club, c'est que.
Tout le monde le savait.
Et puis il a fait un discours à la fin. Ceux qui ont fait un discours, ils partaient.
Il y avait du coup.
Sauf Gilbert.
Ah, merde.
Dagba fait un discours.
Ça m'a
arraché le cœur.
Il y a la moitié du stade qui se disait, mais c'est qui lui?
C'est ça. J'ai jamais vu jouer.
Il est bilingue, moi.
Enfin bon, c'est. Capitale du Bénin.
Ouais, mais donc là, on revient à.
Porto Novo.
Comment? Pas Cotonou. Oui, c'est la capitale économique.
Pas les accords.
Bon, alors, Dimitri Lénard, formidable.
C'était bien.
10 ans. Ouais, 10 ans de. Déjà là, le club était un petit peu mort.
10 ans de COP, machin, ouais, 10 ans de petites roulades.
Ah non, c'est pas évident,
tu es ivre.
Non, il y a eu des coups francs,
il y a eu
première saison où il joue avant-centre, ailier gauche, milieu offensif, milieu droit, arrière-gauche.
Il y a des coups francs contre Colmar,
Corner direct,
coup franc, ça mange pas plus.
Non, en Ligue 2, il en a mis quelques-uns, mais.
Et les corners sous Blayac ou Bouteille, Guillaume en fin de saison, monté en
boulot. Il n'y avait pas une stat sur le à qui il a donné le plus de passes décisives, c'est.
C'est à Bauken, je crois.
Le but volé à Boanga à Colmar aussi.
Ouais, exact.
Là, c'était sa saison, mais il était vraiment pas bon au national.
Je crois que c'est son seul but cette saison-là.
C'est possible,
Mais il est champion, à la fin de la saison.
C'est à un moment, en Radio Stoub, on se disait, mais si on monte en Ligue 2, jamais il faut le garder.
Ouais. Non, tu te disais ça.
Non,
pas
du tout.
Il a mis au Ligue 1.
Il est dans le maquis en 39, lui.
Mais il va nous manquer, je pense.
Et on a pu perdre la Coupe de la Ligue. Sur une panne. Je l'ai insulté. Je l'ai insulté à ce moment.
Je pense que s'il la rate, Lorraine à la fin. Ouais. Ça 5-4 au tir au
but. Mais ça, c'est, tu vois, ça c'est vraiment le génie de la connerie, quoi. Enfin, c'est extraordinaire. C'est quand même.
Mais en fait, c'est toujours pas possible. C'est là où ça devient symbolique. C'est qu'un mec comme ça n'est pas possible dans un business plan parce qu'il a tellement un pet au casque. Et en fait, Lienard est assez symbolique parce que le tamis, la mémoire sélective va faire en sorte qu'on retient que les bons côtés. En fait, ce mec nous a fait rager de multiples fois.
Et bien sûr.
Quand il s'est fait baiser par Roudet, là, le match
qu'on va lancer en Ligue 2.
Il est teubé à mort. Et le pire, c'est que lui-même le reconnaît. Il dit, après, il a la lucidité. Et effectivement, c'est ça qui est beau chez lui, dire. Putain, j'ai vraiment
il a
un gros teubé sur cette histoire.
Il a fait des allers-retours Belfort-Strasbourg pendant 10 ans, il n'a pas eu le temps de réfléchir.
C'est ça.
Il est au péage de Fontaine, il dit bah, là, qu'est-ce que je fous là.
Mais il avait compris que tu peux prendre un bip
Bref, enfin, en tout cas, ce gars-là, il avait un certain côté genre.
Mais il correspondait bien au Racing.
C'est exactement.
Ragé, mais à la fois à côté de magique, parce que le mec qui arrive en national, quand même, la première saison qui est extrêmement compliquée, bah, il finit quand même en Ligue 1.
Il est le meilleur joueur de cette saison, alors que il n'était pas du tout attendu.
Et puis voilà, puis il a fait des buts mythiques, quoi, c'est tout.
Il fait expulser Jacques Moma quand même à l'époque.
Même quand il ne jouait pas pour nous.
Il y a de la personnalité, il y a un côté bordélique, il y a un romantisme, il y a des trucs qui sont pas attendus, c'est pas streamliné.
Il y a une séparation à la fin qui est quand même bizarre, il y a sa sortie dans l'équipe.
Ouais, c'était pas comme ça.
Ouais. Ça, c'était un truc
qui s'est passé. Il a récidiviste, il a fait monter plusieurs fois des rumeurs. Ouais, je suis contacté par trois, il y a 5 ans, tu te sors ce genre de trucs.
À côté, c'est pas un saint non plus, je pense qu'effectivement, il a un côté diva. Et ça n'a jamais été le dernier non plus à allumer dans les médias. Mais c'est en fait.
C'est pour ça qu'on se demande un peu sa reconversion.
Mais en fait.
Marc Lerner lui-même, c'est pas. Parce qu'il a dit on va te mettre un peu partout.
Ambassadeur.
J'ai entendu ce truc-là.
Tu vas faire un passage dans les différents services.
Voilà,
c'est ça.
On va comprendre que c'est bon nulle part. Je pense que tu vas rentrer chez toi.
C'est exactement ça.
Retourner à Bastia. Tu
vas faire un genre de grand stage de 3e.
Mais tu n'auras pas besoin d'écrire un rapport, tu
fais pas chier. Il t'en parle pas à ta maman.
Ah, quel bel hommage. Eh oui, mais oui.
Ça, c'est l'hommage radio. Moi, je voulais faire ça propre, merci.
J'ai fini sur un stage de 3ème.
Voilà, merci Dimitri. Voilà, merci, merci pour tout.
Franchement,
on a bien rigolé.
Mais oui.
Merci. Merci.
Ça sera non, beaucoup moins drôle les prochaines années.
Il y avait de l'humain, quoi. C'était ouais. pas.
Et d'ailleurs, les mecs qui maintenant attendent avec impatience les flots d'argent de Chelsea, c'est les mêmes qui devaient dire que Léna était génial. Mmh. Je pense qu'on est sur le même genre de public.
Ouais, mais tu vois, en fait, quand t'aimes quelqu'un, c'est pour ses défauts, c'est pour ses qualités. Et moi, Léonard, je l'ai toujours aimé pour ses défauts.
Ouais,
c'est une tête de con, il a aucune lucidité, mais d'un niveau abyssal en match, etc. Mais
à force de cravacher, tu vois, il forge le respect.
Oui, ah, mais ça, c'est certain.
C'est un mec, tu vois, je veux dire, tu vois, il s'est toujours donné sur le terrain, alors quelquefois pas très bien, sans doute, mais il s'est toujours donné sur le terrain.
Ah, mais ça, tu peux pas douter à aucun moment de sa sincérité. Le gars, même quand il fait des trucs en voulant lécher des culs et faire le truc fou, là, comme ce truc avec les Alsaciens, tu le vois. Mm. Mais quelque part, en fait, le côté sincère de l'effort qu'il y met, parce qu'il sait que ça va faire plaisir aux gens, c'est suffisamment émouvant pour te dire que ce gars-là, en fait, il... Enfin, je le comprends.
Alors qu'au Keller, ça se voit et on voit que c'est pas sincère.
C'est ça. Et alors qu'au Keller, tu vois le côté calculateur, tu vois le type qui réfléchit d'abord à ce qu'il va dire par rapport à la façon.
Parce que Lienard, c'est comme le Forza Bastia sur le moment de sa vidéo d'annonce là-bas. C'est vraiment pour se mettre déjà les corps dans la poche.
Les corps, ils vont adorer.
C'est sa première interview quand on dit s'il faut mettre des boîtes, on va mettre des boîtes. Les Bastilles, ils sont déjà fous.
Jacques 4000 abonnés.
L'unique sponsor de le Bastia va être content.
Il y a Sauveur,
pièce détachée.
Oscar,
pièce détachée.
C'est rien de lourd qui leur faut. Il n'y a rien sur la deuxième partie du maillot. Il n'y a rien de
sous le bourrelet. Il n'y a rien.
Là où Colin Dagba a dit s'il faut sortir en boîte, on sortira en
boîte. Raima Sissoko.
Merci de m'avoir recueilli. C'était bien.
Cadavre Morgane, s'il faut la déboîte. Ah non. Pardon.
Alors, donc dans les départs, on a aussi
KG
Kawashima. KG Kawashima.
Et Yuito Suzuki, ici déjà.
Ah oui.
Plus de japonais au Racing, voilà.
On a touché 400 000 balles. Donc
merci
pour de la Coupe du Monde Kawashima.
On en a parlé avec Jiku
aussi. Il
y a peut-être Cels pour les éliminatoires pour Gibraltar.
Non, je parle de KG Kevin Gamero.
Ah, pardon.
C'est trop subtil.
C'est malheureux. Hein.
Justement, c'est.
C'est fait, il va se barrer.
Il va aller où?
Je sais pas.
Il a dit qu'il resterait pas en France.
À Chittigheim.
Il resterait pas en France.
Ça tombe bien, les gens
en Alsace. C'est bon. Ah, il va à Chilic avec Khalid Kersan.
D'accord. Et pour aller à Bastia aussi.
Non, mais
c'est pas trop le genre.
Oui, c'est pour ça que je le propose.
Ah, Gamero.
C'est acté qu'il reste pas.
Bah, je pense pas.
Enfin, vu que Marc Keller en a fait sa priorité, il va partir.
Marc, pour le coup, il l'a pas annoncé la prolongation. C'est juste Kevin Gamero qui attend. Il y a quand même une histoire. Les DNA ont quand même raconté, ça discute avec Gamero, il va peut-être rester.
Non, mais jamais de la vie.
Mais il a mentionné quelque chose dans la conférence de presse quand même.
Son Gamero. Moi, j'écoute pas les conférences de presse.
Ah, j'adore Keller. Tant qu'il est là, tout va bien.
Ah ouais.
Ouais.
Allez.
Ah oui. Il me semble qu'il a dit un truc.
Mais vous êtes pas convaincu par le.
Ouais. La dernière saison de Gamero est quand même.
Il y a un moment. C'est la même début. Il y a eu un mois et demi.
Ouais, à Toulouse. Ouais.
Il est remplaçant à la fin.
Il sort de l'équipe quand Antonetti l'apprend
parce qu'il a pas les roues.
Parce que Antonetti met moins d'attaquants, il met plutôt Diallo seul devant et comme ça marche.
Et comme ça marche.
Diallo partant, pas partant. Partant pour rester.
En fait, c'est que là, avec cette espèce de temps de latence, en fait, c'est ça qui m'interroge quand même pas mal. C'est que tu te dis, les gars, ils préparent le rachat, visiblement, ça fait 3 mois que ce truc est quand même sous le. Alors, je veux bien, en termes de finances, d'organisation et tout, ça doit être un peu un gros truc. Mais tu pourrais imaginer que les gars ont un plan et qu'à partir du moment où c'est acté, ils déroulent et en 4 semaines, tu vois
l'opération
paf, ça part, ça vient.
Il y a 6 ou 7 joueurs avant le début du stage. Donc là, ça, c'est marqué à l'après-midi.
Le stage, c'est lundi, c'est ça?
Demain.
Non, c'est demain, ils partent.
En fait, les mecs sont.
Est-ce qu'il y a des infos sur Twitter?
On parle avec eux, là. Mais on a un mélange de côté, genre on est soi-disant être la filiale de Chelsea d'un truc multinational, et genre c'est à l'arrache, genre ah le stage ce sera où et tout. T'as l'impression que les mecs jouent aux aventuriers du rail, ils tirent ah j'ai trois wagons rouges, ce sera en Autriche. Ah, mais
alors, a priori le stage, le stage était calé depuis longtemps.
C'est peut-être une preuve du sérieux. Ils prennent leur temps de chercher joueur après joueur. Profil,
adversaire après adversaire, pour
Théo de la génération Racing qu'on est racheté par Chelsea, on est les égaux de PSG quasiment. Le PSG, ce genre de club, alors même plus bas, Marseille, tout ça, c'est des clubs qui normalement déclenchent le marché. Hein, c'est-à-dire c'est quand eux commencent
mais c'est ce qu'on va faire là.
Oui, nous on est censé le faire.
Mais maintenant on va le faire avec Sylla.
Ouais, tout ce qu'on fait, c'est qu'on déclenche les rumeurs dans les journaux.
Tu crois pas signer. Non, mais il y a un joueur. Non, mais Sylla il va signer là, c'est fait.
Aujourd'hui, non, mais tu crois pas signer. On a pris un membre du staff du PSG.
Ah oui, c'est
Nicolas Mayer.
Ouais, Nicolas Mayer.
Prochaine étape, c'est Mbappé.
Il est doublé, hein, Nicolas Mayer. Donc,
ah, il est quand même au PSG. Oui, ça veut dire. On va prendre Schneiderlin. Et du cru.
C'est
de la merde.
Voilà, sur le mercato, il n'y a pas grand chose à dire.
Donc, non, on s'en fout.
Je pense qu'il peut partir s'il y a une offre. Mais...
On s'en fout pour que les 20 millions ou les je sais pas combien aillent dans les poches de Chelsea, parce que j'en ai à foutre.
Non, mais c'est vrai, comme c'est plus notre club, mais c'est ça, plus notre argent. Comme on va lâcher 20 millions pour un mec qu'on connaît à peine. Donc, ouais. À la rigueur, les 10 millions de Diallo, c'était la préhistoire.
Ouais, voilà.
Et donc, quand on vend pour 10, 15 ou 20, on s'en pète.
On a plus besoin d'argent.
Voilà, on en a plus besoin, puisque c'est pas notre argent, mais c'est pour notre club.
Au niveau des abonnements, ça va être gratuit aussi
hein. Ah, j'ai payé. Moi, j'ai payé, je peux dire que c'était pas gratuit. Du coup,
ça n'a pas augmenté.
Avec deux matchs.
Oui, mais des matchs en moins.
Marc, il explique bien dans la lettre.
Il
y a Ajaccio et Angers en moins.
Ah, t'as reçu la lettre, moi j'ai pas ouvert ma boîte.
Ah, j'ai pas reçu la lettre.
J'ai reçu un mail.
J'ai peut-être dans les spams.
Ouais.
J'ai qu'un seul Keller qui m'écrit les mails.
Ouais, bon, donc on s'en fout de l'eau, c'est ça?
Donc le mercato,
nul.
Ouais.
Les gens votent avec leurs pieds, c'est-à-dire que tous ceux qui pouvaient se barrer se sont barrés. Antonetti s'est barré, Djikou s'est barré, Gamero reste pas.
Le Marchand,
c'est pas seulement qui doit parler de Sissoko. Sissoko,
tu veux le placer.
Et Persic,
que fait-on? Non, mais les Américains ont déjà vu Sissoko jouer.
Mais ils y comprennent rien, ils s'en foutent.
Ils sont fous de rôle dans une équipe. Dans une équipe de NBA, t'as toujours un gars qui est là pour lancer des parpaings et prendre les 5 fautes et revenir sur le banc.
C'est le Udonis Haslem de...
When the center, what is doing in the midfield? They cannot get a rebound.
Ouais, vous êtes un peu méchant parce que Sissoko était déjà le premier joueur à passer son temps en McDo, donc du coup, il était en avance sur son temps.
Non, mais tu sais, à une époque, c'était comment il s'appelle Shaquille O'Neal. Le mec était nul au lancer franc. Et les autres équipes, ils avaient trois gars qui en fait étaient payés juste pour faire faute, parce qu'en fait, il valait mieux que le gars foire un lancer franc sur deux, plutôt que de le laisser en position de dunk. Ça aussi, c'est rationnel.
Quand il me parle plus de NBA que du Racing,
mais c'est pas mal, NBA.
Ouais,
c'est
pas. Ouais.
Bon, le quiz, c'est pas mal aussi. Hein.
C'est pas mal.
Il y a Kawashima qui part aussi. Et le marchand qui a mal, du coup.
Ah, il y a une question. Ah oui, une petite question.
Ouais, le quiz.
Et tous les jeunes qu'on a signés.
Le marchand, Djikou, Lénard, Thomasson, Gamero et Ajor, partir en 6 mois. Pensez-vous vraiment que l'excellent état d'esprit du vestiaire loué partout. Ah merde, on aurait dû la poser dans l'émission il y a un mois.
Ah merde.
Et c'est qui a posé cette question?
C'est Super Dovu, nouveau. Pensez-vous que l'excellent état d'esprit du vestiaire loué par tous les entraîneurs, Loré, Stéphane, Le Scorné, Antonetti, va perdurer?
Non, mais de toute façon, l'état d'esprit du vestiaire, c'est de la merde.
Voilà, c'est de la merde.
C'est l'odeur des vestiaires qui me fascine.
Exactement.
Ça y est, le quiz.
Bon, le quiz.
Convivialité,
le questionneur, on n'est pas. Il n'a pas été rejeté.
Non, un dernier truc avant, parce que c'est CarlF6 de Twitter. Question, il a demandé si on pouvait critiquer Bluco. Je pense que la réponse
c'était pas mal.
On les a assez peu critiqués au final.
Non.
On les a plus mis sur le dos de Marc Heller et de la classe politique.
On les a déconstruits. C'est vrai.
En vrai, moi, je pense que c'est des gens relativement sérieux.
A-t-on le droit d'être critique au sujet du rachat par Bluco?
Ah oui, bah là, c'était ça, c'est de
la réponse était dans
on l'a un peu fait.
Ouais. Non, je voulais quand même qu'on cite F6-1. Voilà.
Et oui, bah, c'est
réussite. Hein.
Bon,
pour le quiz.
Première question. Est-ce que Jean-Luc Filzer reste speaker du Racing?
Ouais.
Alors attends, comment fonctionne ce quiz?
Qui a eu un comme d'habitude, hein, des questions à la fin sur.
Restez concentrés.
Et ça, c'était une question du quiz, ça?
Non.
Ah, yes, sir.
Yes.
Un peu de sérieux.
Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.
Et moi, je conduis pas. Et
puis, vous pouvez
voir sur YouTube
de. De Cobb. Eh oui, welcome to the East End. Tiens,
c'est
très bon.
C'est pas mal. Je peux y aller, c'est validé, je pense bien.
Première question, quels sont les deux joueurs de champ qui ont été utilisés le plus de fois cette saison?
Djikou.
Non. Bon, bien.
En minute,
Diallo, ouais. En match.
En match.
Diallo, j'ai une bonne réponse.
C'est qui donne d'abord.
Perrin.
J'en dis pareil.
Oh là là, Perrin, vraiment la mauvaise réponse.
Bellegarde.
Non, j'ai dit blessé. Donc c'était Diallo 37 matchs sur 38. Et il y en a un qui en a 34.
Matheus
Gamero.
Non, un joueur de
champ. Gamero.
Ah, joueur de champ,
t'as oui, en match, oui, bah oui. Avec les entrées en jeu. Non, mais en nombre de matchs.
Avec les entraînements.
Oui. Combien, Gamero?
34. Gamero est apparu à 34 reprises. Un joueur que personne ne veut garder.
Rock and roll. Ok.
Quel a été le joueur qui a joué le moins de matchs?
Candil.
Non.
Danny Candil.
Danny Jean, ouais.
Il y a quelqu'un moins que Suzuki.
Il y a un mec qui a joué un match là qui est parti.
Suzuki a joué deux matchs.
Oui, non, trois matchs.
Oui, Barry,
deux matchs. Il y a un joueur qui en a joué un seul.
Mais
il y a
Fribourg, comme Fribourg.
Non.
Fribourg, comment ça s'appelle?
Oui, Barry. Championnat.
Chahiri?
Non.
Ah non.
Le championnat, il y a un joueur qui en a joué un seul.
Putain, elle m'entend bien.
De tête, il est rentré en fin de match.
Ah. Non.
Ouais. Nus.
Non. Non, 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 il a fait deux matchs.
Ben, Nijon a joué deux ou trois matchs.
Deux. À Monaco.
C'était
tellement
gros.
C'était n'est pas rentré.
C'était la coupe. Si, je l'ai vu.
C'est pas un vérifiant.
Attends, tu me déçois.
Saïd.
Non.
Non.
Mais Saïd n'a pas joué du tout.
Tout cité sauf celui qui joue.
Mais c'est un jeune.
Il est pas très vieux, effectivement.
C'est un gars.
T'as de son poste, hein, juste pour.
Mais il y a combien d'autres questions arrière?
C'est pas le mec qui est rentré à Brest?
Non.
Arrière?
Je crois qu'il est rentré à Nice.
C'est Naya,
mais oui.
Marvin. Et vous savez, son frère est au lycée Jean Mermoz de Saint-Louis.
Oui, ils sont jeunes, Saint-Louis. Il est à Saint-Louis, Marvin.
Son père a joué à Cannes.
Saint-Louis dans Missouri, comme.
Saint-Louis dans Missouri, qui a perdu la
NFL.
C'est Naya, Marvin Saint-Naya.
Marvin Saint-Naya.
Qui a été le meilleur passeur de la saison?
Bellegarde.
Bellegarde, en réponse. Combien de passes?
4,
bonne réponse.
Et Marvin Senaya fait deux passes décisives sur le match amical à Liverpool d'ailleurs.
Bam.
Allez, c'était pas un mal. Hein.
C'est un match qui nous a rapporté 3 points au début de championnat.
On s'est vu champion d'Europe.
On était bien.
On va passer un peu sur Dimitri L. Combien de matchs officiels a-t-il joué au Racing? Officiel.
312. 330, Nébro.
331, c'est la bonne réponse. Là, ça fait 8 vies d'un coup, quand même. 331. Voilà,
on peut rappeler que c'était des questions au fameux quiz Racing Database. Remporté par je ne sais qui encore.
Dit database.
Parce que la fédé n'était pas là. Hein.
Le Dautobos.
Combien d'expulsions dans ces 331 matchs?
Oh,
deux. Putain. Non.
Bonne réponse.
Ouais, Francfort.
Sans Valenciennes et contre Francfort.
Ouais. Roudet, putain.
Combien de passes décisives?
Ah,
une quarantaine, non?
35, non, plus que 29, non?
Une quarantaine, ouais, 40.
En comptant les groupes qui ont arrêté?
41. Oui, tout.
46. Ah,
tout, mais c'est-à-dire que la balle doit arriver vers le buteur.
Ouais.
C'est la définition de la passe
décisive. Passe décisive, Racing
Stool. La balle va à la main.
Ok.
51.
46 pour moi.
46.
Bah, je reprends, je vais dire 48.
48.
37.
50, bonne réponse. Non, là aussi, ça compte. Ouais. Bien sûr.
Juste à côté.
Quelle est la saison où Lienard a disputé le plus de matchs?
2016-2017.
Officiel en championnat.
2016-2017. Ouais.
2015-2016. Hein.
2017-2018.
Non.
Hein? 2020-2021.
Non, c'est oui, bonne
réponse. Il était souvent en place.
Donc il a effectivement marqué 7 coups francs, ça a été dit plus tôt. Contre qui?
Le Havre,
Colmar, Lyon.
Colmar, bonne réponse. Lyon, bonne réponse.
Le Havre.
Éliminé, non.
Nîmes.
Quoi? Colmar, Nîmes, par quoi?
À Nîmes.
Si, ah, bonne réponse aussi.
Ça surveille bon, ça surveille.
Chambly.
Chambly. Ah, c'est celui-là, il vaut 2.
Eh, Nîmes, il en vaut 2.
Non, Nîmes était facile. Il en manque 2.
Bordeaux.
Bordeaux, c'est une
bonne réponse. Bordeaux, là-bas, le 3-0 à Terrier.
Et il y en a un dernier, qui, je crois, n'a pas été dit.
En Bordeaux, on écoutera l'enjeu.
Il n'a pas marqué le coup en national. En national.
Il y a Orléans, mais c'est un corner direct.
Non.
Sans déconner, il a marqué un coup. Là, c'est pas possible.
Pour arrêter sur lui.
Non.
En national,
Sochaux.
T'es vraiment sûr pour le Havre? Moi, j'ai souvenir un match en fin de saison de Ligue 2 où il met un putain de coup franc contre le Havre.
Là, c'est le corner.
Peut-être qu'on
il y a deux corners pour moi, il y a deux corners.
Oui.
Comme ça,
c'est quoi, c'est 2015-2016?
Avril 2016-2017.
Pour en bref, le match de la montée, il y a un coup franc qui est contré. Enfin,
ouais, ouais, avec un but contre son camp, c'est Boutaïb, c'est Boutaïb maintenant.
Luçon?
Non.
Pour aller sur lundi, ouais.
Uzès,
Carquefou,
Stampoup, Uznat,
Épinal. Épinal, bonne réponse.
Ah, je match à la Méno.
Oui, on perd 2-0.
Ouais, où il fait froid là.
Avec Weisbeck qui entre en jeu.
Bon, et Rédion.
Et le mec du
futsal, c'est Blayak.
Mekaïda.
Du coup, son premier coup franc, effectivement, était contre
Colmar.
De toute beauté.
De toute beauté. Le 13 février 2015. C'était en plus son anniversaire, et donc il me faudrait l'équipe, bien sûr. L'équipe qui a disputé le match contre Colmar.
À la Saint-Ndiaye.
JP Dark,
attends.
Tu peux y aller, tu peux commencer. L'équipe qui a gagné plus avant, ah oui.
Okay.
Facile.
J'étais avec mon fils cadet, il avait un bonnet bleu, pas noir, ça j'en suis en train de
faire. Ça fait une c'est bon.
Allez. Non, mais je sais pas.
Facile,
le gardien.
Colmar.
Contre Colmar.
Colmar.
Ou qui déjà bonne réponse.
C'est quelle année, la Ligue? 2014-2015?
Ouais, c'est ça. 2015-2016.
Ah, 2014-2015.
C'est l'anniversaire de Miennard.
Ok.
Ouais, voilà, ouais, c'est que t'as trop beau l'équipe, effectivement. Regarde toi.
Ah, c'est à moi, pardon.
Un Blayak. Blayak. Ah non, il ne jouait pas ce match. Bon, c'est bien, c'est bien.
Voilà.
Tutel. Et pas évident.
Bah, Liénard.
C'est quand même effectivement qui est capitaine.
C'est plus simple en plus. Bon, moi j'ai tenté Sikimic. Oh non.
Bonne réponse. Sikimic a joué.
Oh putain, ouais, mais là c'est fini.
Si, si, tu peux revenir.
Il y avait encore du. Non, il n'y avait plus. Donzelot, il n'y avait plus.
Donzelot, il n'y avait plus, mais tu t'as demandé donc c'est
pas grave. Il était blessé.
Donzelot.
Sérieusement, je ne sais plus personne de cette époque-là, je ne citais personne.
L'entraîneur, tu peux citer aussi. L'entraîneur est
sur l'affiche.
Ah, l'entraîneur, c'est bon. Ah, attends, c'est pas. Il y a piège peut-être.
Il y a piège peut-être, mais c'était pas le score même.
Survêtement, Benfeld.
Kartfeld, là, Kartfeld.
Chevaux.
Duguay-Pérou, bonne réponse, effectivement.
C'est déjà Duguay-Pérou?
Ah, oui, le piège, c'est là, alors il y avait.
Il n'y a pas quelle
heure? Non, c'est la saison d'avant.
Non,
c'est la saison où on monte pas.
Je fais un plat du pied sécurité ou est-ce que je fais pas avec un
plat du pied sécurité? Plat du pied sécurité.
Ah non, c'est
pas en confiance.
Ah, enfin,
la
plat du pied sécurité. Et du
master. Ah, il est pas
mal. Non, l'année d'après, Oh là 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 là.
Plat du pied, j'ai du grime.
Ah oui, évidemment qu'on est nuls.
On a tenté tous les arrières droits, donc je vais insister avec Chrétien.
Bonne réponse.
Ouais.
Oh.
Ah oui.
Là, il marque des points. Hein,
ok, Chrétien.
Il est encore droit ou
Chrétien
non, t'es plus dedans.
Ouais. Oui.
Sabot.
Sabot.
Non.
Sabot est rentré à la place. Et Sabot est rentré ouf.
Oh merde.
Il y avait une autre arrière gauche plus simple que tu as.
Alors,
qui veut double? Qui compte double?
Bokem, je pas. Blayak, on ne pas.
À la gauche.
Qui compte double?
Les jambes.
Ah oui, je crois que je l'ai.
Et il a signé plus.
Ah,
ah oui.
Endur.
Oh, bonne réponse. Somptueux.
Merde. Je voudrais remercier ma femme, que j'aime beaucoup.
que j'aime bien.
C'est ça, les mots. C'est la Boulogne,
ça. Ah, c'était bien. Mais.
Un autre Sénégalais.
Oui, mais non. Non.
C'est vrai que c'est ma femme que j'aime bien.
Non, vraiment pas.
Avec son espèce de cri de guerre que personne
ne comprend. Ça, c'était pas Endur.
Je crois qu'il a crié.
Attends.
Vovnarkei.
Attends, continue.
Il remplace, je crois. Il est encore là?
Il reste quoi comme poste?
Non, il est parti.
Bah, on a fait toute la défense.
Effectivement, le cri de guerre.
Demi, un attaquant. Qui, je crois, si je ne m'abuse, avait marqué lors de ce match.
Dakota, non, il est pas encore.
Mais non. En national.
Baptiste Guillaume, c'est pas encore, non?
Non, c'est en Ligue 2.
Non.
C'est la deuxième année?
Deuxième année de national
avec Jacques,
Colomiers.
C'est Colomiers, oui.
Fauvergue, la fin Colomiers.
C'est Mendy, alors.
Ouais, mais là, je perds mes moyens.
Attends, Mendy, il fait le tour correctement.
Kittel, c'est fini.
Ouais, tu give up. Là, on a parlé du cri de guerre.
Oui.
Gifilou.
Mayo Wendoy. Comment
tu sais quoi?
Alassane Ndiaye.
Alassane Ndiaye, ouais. Bonne réponse.
Ah ouais.
Ah là, il en manque 4.
Ah voilà.
Un qui a fait l'actualité des transferts récemment.
Ouh.
Il est passé d'un club de Ligue 1 à un club de Ligue 1.
Ah. Moi, je veux dire quoi? Il a quoi.
Johan Salmi, bonne réponse.
Johan Salmi. Voilà quoi.
Kittel, il en reste 3.
Écoute, je vais miser sur Frédéric Marquez.
Oh,
wow.
Ça, c'est un bon. Ça mérite un point.
Un Colmarin, quoi.
Parce que je crois qu'il n'était plus là, Marquez. C'est là,
il était prêté au Luxembourg.
Il était au PFC.
Au PFC.
J'aurais une rechance.
Oui, mais oui.
Yannick Agüémont.
Bonne réponse, Yannick Agüémont.
Stanislas Oliveira.
Bonne réponse.
Il n'était pas blessé. Il était
bien
resté.
Il est rentré, c'est un de ses rares matchs chez nous, il compte presque double.
Celui-là, je suis pas peu fier d'avoir
le Persic, il en reste un.
On a le gros poste là.
Milieu. Il joue encore.
Racine, non.
Il y avait Liena.
Il joue encore. C'est pas Benjamin Cornier, c'est pas la même
année. Benjamin Cornier.
Il joue plus, il a arrêté.
Il y a 10 ans.
Il joue encore un milieu de terrain.
Ça serait pas Brian Amofa?
Ouais, il était parti en plus. Il a fait qu'un an national. Ah putain, comment il s'appelle ce connard là? Celui qui ricanait quand on est descendu en national.
Mamadouba?
Non, c'est pas Mamadouba. Au milieu.
C'est pas celui qui joue à Bourg, qui marque contre nous après là.
Non, c'est bien.
Non,
il d'amour, c'est.
Ah ouais, alors là maintenant j'ai la liste devant
c'est
les
yeux. Pas de la
même. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est, il a fini dans le coin, hein. Dans le Haut-Rhin, où il y est toujours, je crois.
Dans le Haut-Rhin.
Si je ne m'abuse.
Lissabonnecht?
Non.
Oh, il est toujours.
Fares Bramien?
Oui. Non. Il est toujours dans le Haut-Rhin.
Ouais. Dans le 6-8.
Putain. Ah putain, le pauvre.
Ouais.
Bah Grimm, il a été sorti.
Ouais. Ah, il a joué avec Grimm.
Gendini.
Non.
Ah, Bellamer.
Yes.
Oui, Bellamer.
Ah, Bellac, putain.
Oui, Bellamer.
Et il est où? Il est à Mulhouse?
Il y a Colmar.
Au stade de Racing.
Colmar, ben voilà. Vous les avez tous, hein. C'était...
Bravo.
On cherche à qui?
Prends ça, Ted Bully.
Todd.
Combien il peut en citer, lui, hein?
C'est comme Dimitri Linhart, hein, on n'y arrivera jamais avec Todd Bully.
Ouais.
Todd.
On leur souhaite de rester tout aussi longtemps l'un que l'autre au Racing.
Ouais.
On va devenir ambassadeur et bouffer des bretzels avec Matt Sells.
Sur un truc croisé, Europe, avec Jérémy Grimm qui fait de l'accordéon.
Je pense que voilà. Cette émission se termine sur toutes ces notes de gaieté et de fraîcheur florale que nous apporte notre partenaire
Canard
WC. Merci à tous.
Merci.
J'espère que Radio Ch'tou pourra continuer.
Grâce au financement des auditeurs.
Oui.
OnlyFans, tout ça.
Tout ça, OnlyFans, exactement. Envoyez, mettez des cloches bleues.
Et une émission très joyeuse aujourd'hui en plus.
Voilà. Mais surtout, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, quel que soit le propriétaire ou quel que soit
Le
président ou le milieu de terrain,
allez Racing.
Je trouve ça un peu désolant, mais après, franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà.